With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on va enchaîner avec la deuxième chronique et c'est Das qui va nous parler de ses jeux de l'espace.
Yes!
Déjà vu.
Incroyable, oui, Daz, incroyable. Daz, hein, Daz. Fibre Optique qui nous parle de Serious Gaming une émission sur deux me dit oui, tu parles toujours de tes jeux de l'espace, c'est quand même incroyable. Oui, effectivement.
Effectivement, il a raison.
Effectivement, il a raison. Non, mais effectivement, c'est mon dada. Je suis un peu Omar Sharif quand c'est spatial, je m'éclate. En 2012, hein, il se passait pas grand chose sur Terre. Les Mayas avaient prédit la fin du monde. Le Costa Concordia s'échouait misérablement après une tentative de roue arrière pour épater les gonzesses. Félix Baumgartner sautait en parachute depuis la stratosphère. Parce que c'est le seul moyen dont dispose un homme blanc pour se faire peur. Des gens talentueux relançaient le podcast français avec Studio 404, tout soon. Ma fille naissait, bref, il n'y avait pas grand-chose de folichon. La vie suivait nonchalamment son cours inexorable, en pente douce vers un trépas certain. Tout a changé.
En fait, le mec, il a changé d'intro, et après le reste, c'est la même chose.
Tout a changé. Tout a changé quand deux annonces majeures ont secoué la planète. La première, c'est David Braben, le père de Elite et Frontière Elite, et accessoirement à l'origine de la fondation Raspberry Pi, qui annonçait vouloir rebooter sa franchise fétiche avec un épisode intitulé Elite Dangerous. Je vais pas refaire l'exégèse du jeu, j'y ai consacré une chronique dans le studio 404 numéro 26 de février 2015. Too soon, encore une fois. De l'autre côté de l'Atlantique, Chris Roberts, à l'origine de Wing Commander, Star Lancer, Freelancer, et également producteur de films comme par exemple Lucky Number Slevin, qui est un peu de la merde, lui, il crée un studio qui s'appelait Cloud Imperium Games, pardon, et annonçait Star Citizen, un jeu à l'ambition tellement grande qu'aucun studio ne pouvait ou voulait le suivre dans cette entreprise titanesque. Les deux jeux sont des Space Sim, vous en doutez, sinon je vous en parlerai pas, avec un terrain de jeu un petit peu grand. Elite Dangerous, c'est la galaxie à l'échelle 1, 400 milliards d'étoiles, on s'amuse bien. Elite s'appuie énormément, pour le plus grand bonheur de Fibre Tigre, sur la génération procédurale pour générer ses planètes. Star Citizen, lui, comptait initialement sur 60, puis 70, puis 100 systèmes, parce qu'en fait, ils en ajoutaient au fur et à mesure que le financement battait des records. Et ils en ont encore battu un l'année dernière, d'ailleurs. Au départ, et bien que ces deux jeux mettent en avant des aventures spatiales et des vaisseaux qui font piou-piou avec des lasers, ces deux titres n'avaient en fait pas grand-chose en commun. Elite Dangerous vous propose d'incarner un pilote éternellement harnaché dans son siège aux commandes de vaisseaux de tailles différentes ou d'un rover à la surface de certaines planètes. Le jeu fait la part belle à l'exploration, au trading, on l'a dit, et globalement au jeu solo, comme les anciens épisodes de Elite, qui étaient des jeux strictement solo, avec de temps à autre, maintenant, puisque c'est la modernité, des interactions avec d'autres joueurs dans un monde ouvert, certes, mais tellement vaste que ça reste relativement rare. Et plutôt dangereux. Star Citizen, lui, c'est le contraire. Il vous met dans la peau d'un personnage, en FPS ou TPS qui peut aller et venir à sa guise dans l'univers, dans les stations, dans les villes, sur les planètes, dans les métros, et bien sûr dans les vaisseaux de tailles différentes, ou des rovers, ou même des motos qui volent à la surface des planètes. Il a d'emblée été présenté comme un MMO pour sa partie multijoueur, l'accent étant mis sur le vol en équipage et le PVP, avec une emphase sur tous les rôles qui permettent généralement de tuer quelqu'un sans raison apparente. Au commencement, donc, les deux titres n'avaient pas tant de similitudes que ça. C'était d'ailleurs full détente à l'époque. Il était pas rare de voir les studios se congratuler les uns les autres, s'envoyer des petits messages, etc. C'était rigolo. Comme par exemple Chris Roberts, qui, à la sortie d'Elite Dangerous en décembre 2014, avait posté un message sur le site de Star Citizen qui s'appelait « Félicitations Elite Dangerous » et qui insistait sur le fait qu'il y avait de la place pour tout le monde, surtout dans l'espace. Petit clin d'œil. Que les deux jeux étaient indés, ce qui était vrai, et que l'avenir était cool pour les amateurs de Space Sim, ce qui était vrai aussi. Donc les deux jeux avançaient comme ça, côte à côte, depuis 2012. Et en fait, Elite et Star Citizen, c'est un peu l'inverse de la fin de Fast and Furious 7, si vous l'avez vu.
C'est-à-dire spoil pas
bah alors, Fast and Furious 7, on en est au 18, ça va aller.
Ne spoil pas.
À la fin de Fast and Furious 7, on voit Paul Walker et Vin Diesel. Voilà, et Vin Diesel qui roule côte à côte avec une musique qui fait chialer et qui se sépare à un embranchement. Tu comprends qu'il y en a un qui va suivre sa vie, l'autre qui va suivre sa mort parce qu'il était mort pendant le tournage du film.
Putain, voilà. Spoil tout.
Bah non, on le sait, Paul Walker. Si vous n'avez pas vu la fin de Fast and Furious 7, même sans aimer les Fast and Furious, vous avez raté quand même un grand moment de cinéma. Donc voilà, là, on avait ces deux personnages qui se séparent à un embranchement d'autoroute. Et là, en fait, avec Star Citizen et Elite, c'est l'inverse. On a deux jeux qui roulent côte à côte pendant longtemps sur une belle route à deux voies, pendant 8 ans à peu près, avant de réaliser que la route passe à une seule voie, à 1 km, et qu'il y a forcément un des deux qui va mourir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, presque 10 ans se sont écoulés depuis les campagnes de crowdfunding réussies par les deux studios. Entre-temps, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés, comme Hello Games avec No Man's Sky, hein, qui est un peu un Elite un peu play school. Donc No Man's Sky, hein, qui s'est lancé de manière, on va dire, relativement raté.
Complètement foiré.
2016.
Hein, 2016 c'était ?
2016.
Ouais. Ah, c'est autant que ça.
Et bah, le lancement du projet vers 2012.
Aussi ?
Ah, je me rappelle que je crois que j'ai fait une chronique aussi sur SPC.
Après en 2016.
Je me rappelle pas de celui-là. Non, franchement, je me rappelle pas de celui-là. No Man's Sky, ça me surprend. Donc No Man's Sky s'est avéré être un échec assez monumental au lancement avant de formidablement redresser la barre à force de boulot, d'excuses, de contrition, de coups de fouet et d'updates gigantesques et gratuites. Et le 19 mai de cette année, mes bons amis, Frontier Development s'apprête à lancer Elite Dangerous Odyssey, la dernière mise à jour de son jeu galactique, 6 ans et demi donc après la sortie initiale. Est-ce que cette extension ajoute, tiens en deux mots, Space Legs?
Comment on traduit Space Legs, Lucie?
Les jambes de l'espace.
Les jambes de l'espace.
Donc Space Legs, c'est évidemment un terme qui n'est pas dans le jeu. Par contre, c'est un terme qui est utilisé sur tous les forums et sur tous les subreddits qui sont consacrés au jeu pour qualifier le fait de marcher dans son vaisseau. Parce que pour beaucoup, c'était ce qui manquait au jeu. Surtout quand on regardait justement la concurrence, à savoir Star Citizen. Et, oui, voilà. Donc, ça se bastonnait à l'époque. Hein, entre les gens, donc... au sein de la communauté même d'Elite Dangerous, entre les gens qui disaient que marcher était inutile, d'autres qui pensaient qu'au contraire, sans ça, Elite allait mourir parce que la concurrence était beaucoup plus sexy, les vieux briscards qui disaient qu'en 84, on marchait pas dans Elite et que le jeu était très bien comme ça, ceux qui leur répondaient que dans ce cas-là, cette bande de vieux connards avait qu'à retourner jouer à Elite version 1984, et les derniers qui, eux, disaient qu'il y avait sûrement plus important à faire que marcher dans son vaisseau, comme par exemple refondre le système de mission ou corriger le trading.
Et toi ?
Moi j'étais partagé, mais j'étais pas spécialement pour marcher dans son vaisseau. Je me dis ça sert à que dalle.
Je pense que c'était pas la prio non plus.
Voilà. Mais globalement, tous s'accordaient à dire que à cette période-là, genre 2-3 ans après le lancement, Elite était un petit peu moribond. C'était le type de jeu auquel tu accordais 3-4 semaines de jeu très intense avant de plus le toucher pendant 6 mois à peu près. C'est ce que moi je faisais, ce que l'âme faisait aussi. C'était vraiment comme ça par période. Et puis après, on oubliait que le jeu existait. Il était évident que Frontier pouvait pas laisser le jeu en état. Donc Elite Dangerous Odyssey propose maintenant aux commandants de lever leur séant et d'aller arpenter la surface des planètes avec ou sans atmosphère, de visiter des outposts et des starports et de prendre part à des activités diverses sans que cela n'interfère de quelque façon que ce soit avec le jeu initial. Okay. En clair, si ton kiff dans Elite, c'est d'être un routier de l'espace et de traverser la galaxie via la Neutron Highway pour livrer 700 tonnes de thé, Odyssey, il va pas t'attraper le bras et te le tordre pour te forcer à te bastonner dans des coursives d'une base militaire. Et à l'inverse, avec Odyssey, si t'es intéressé par toutes les interactions à pied, le boum boum pam pam avec des fusils sur les stations, mais que piloter te fait royalement chier, eh ben tu peux complètement jouer à Elite Odyssey sans jamais avoir ton propre vaisseau ou piloter quoi que ce soit. Ils ont mis un genre de système de taxi et ça t'emmène où tu veux.
Ah ouais ?
Ouais, ouais. Donc en fait, ils disent, vous aimez pas piloter ? Venez jouer quand même, c'est pas grave, vous êtes pas obligé de le faire. Moi, je dois vous avouer que j'étais très très sceptique sur la capacité qu'avait Frontier d'offrir un gameplay à pied qui tienne le pavé, quand on sait que le studio n'a développé finalement, à part Elite, que des gestions, des simulations de parcs d'attractions ou
oui,
ce genre de choses.
Oui, mais dans Zoo Planète,
ouais.
Et bien, on est à pied, dans son propre zoo, on se balade.
Ouais. Ouais, mais c'est très basique.
Mais c'est une caméra comme dans Theme Park.
Ouais. On nourrit les girafes.
Ouais. Oui, mais entre une caméra subjective et un FPS.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, moi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, le gameplay nerveux d'un Call of Duty ou d'un autre FPS en vogue à vocation militaire baston, ça se programme pas en claquant des doigts. Donc j'ai téléchargé l'alpha de Elite, parce que j'avais déjà téléchargé celle de Star Citizen, après tout, je me dis pourquoi pas, j'adore les alphas, allons-y. J'avais plein de doutes, Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour paraphraser Xavier Dupont de Ligonnès, bah, j'ai eu une méga surprise. Coucou tout le monde, vraiment.
Salut les cochons.
Coucou tout le monde.
C'est ça, les terrasses s'ouvrent.
Oh, mais t'es horrible.
Il est horrible.
Donc dans Odyssée, on découvre à pied des environnements qu'on a parfois vus 10 000 fois depuis le cockpit. On prend enfin conscience de l'échelle gigantesque des vaisseaux. On peut observer à travers les baies vitrées les vaisseaux qui vont et viennent dans les stations, qui est une vue quand même assez iconique du jeu. Et le fait de marcher, finalement, ça marche. C'est con, hein, mais ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Et surtout, les devs offrent des vraies phases de jeu. C'est pas juste un gimmick. Les outposts qu'on trouve sur les planètes sont ultra détaillés. Les interactions et la façon d'aborder les missions sont assez variées. La surface des planètes a été retravaillée, l'extérieur des vaisseaux aussi. Bref, Frontier s'est pas contenté justement de proposer une nouvelle caméra à hauteur d'homme. Ils ont fait progresser le jeu sur le plan graphique. Et il fallait bien, parce qu'en même temps, le jeu a 6 ans. Et donc ça marche très très bien. J'ai joué à l'alpha, et ce que je prenais pour une feature sympa m'a mis une gigabaffe. Ça bouge très bien, les sensations sont super, y compris avec les armes. Les environnements sont magnifiques. On peut approcher d'une planète avec un bon vieux Cobra Mark III, comme on a toujours fait, chercher une épave, se poser, descendre du vaisseau, s'approcher en sautant avec le jetpack, et découper avec un cutter au plasma les panneaux de maintenance pour récupérer les pièces détachées. Tout ça, ça se fait de manière complètement fluide, ultra tranquille. C'est vraiment... je savais même pas que j'avais envie de jouer à ça. Voilà. En fait, j'ai vu le truc, et les mecs te proposent une mécanique ou une boucle de gameplay qui était pas forcément ce que tu comptais faire, c'est-à-dire là, du salvage, chose qu'on ne faisait que très rarement dans Elite. Et quand tu calques en fait tout ça sur l'univers déjà disponible, t'es pris de vertige en fait, parce que tu te dis putain, mais alors si je peux faire ça ici, ça veut dire que je peux le faire aussi dans tel autre contexte, tel autre environnement, avec l'Empire, avec la Fondation, la Fédération, etc. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et rapidement en fait m'est venue en tête une réflexion, c'est qu'Elite Dangerous Odyssey, c'était tout ce que Star Citizen devrait être. Parce que du côté de Cloud Imperium Games, la situation progresse pas des masses. Le jeu est en alpha depuis 8 ans, c'est un peu long. Un seul système stellaire est disponible, c'est un peu con. Donc c'est Stanton, hein, y a 4 planètes, 12 lunes, un planétoïde, des ceintures d'astéroïdes, etc. Oui, le terrain de jeu est très grand. Le terrain de jeu pourrait être utilisé dans un jeu fini, finalement, sur un seul système. Voilà. Mais on est quand même loin de la promesse initiale. Un truc éloquent, hein, pour un Space Sim par exemple, c'est le fait que le mouvement des planètes soit pas encore implémenté. Ça fait 8 ans. Hein.
Ah bon ?
Donc les planètes tournent sur elles-mêmes, donc il y a un cycle jour-nuit. Par contre, elles sont fixes. Elles ne tournent pas autour de l'étoile depuis 8 ans. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Donc, elles ont des positions fixes.
C'est ouf.
Voilà. Pour un jeu qui s'appelle Star Citizen, moi, ça me... Et qui fait aussi la part belle à quand même
donc
l'exploration.
L'étoile n'a aucune influence, en fait, dans Star Citizen.
Rien. Ça pourrait s'appeler Citizen.
Citizen.
Non, c'est ouf. C'est le genre de truc qui, moi, perso, ça me rend fou. Et des trucs comme ça, il y en a mais des milliers dans Star Citizen. Je ne vais pas les lister. Mais à côté de ça... On constate qu'il y a un soin presque maniaque apporté à des détails tellement insignifiants qu'on se demande si en fait Cloud Imperium Games ils se foutent pas de notre gueule depuis 8 ans. On parle d'un jeu qui a encore du mal à gérer les ascenseurs, hein, qui sont des éléments cruciaux pour pouvoir se déplacer, aller dans son vaisseau, etc. Mais à côté de ça, on parle d'un jeu dans lequel on peut, dans son vaisseau, aller dans la salle de divertissement, saisir la reine blanche sur un jeu d'échecs qui est posé sur une table, la poser sur un sous-verre sur une étagère le long du mur et ouvrir une trappe cachée pour pouvoir mettre de la marchandise de contrebande. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans un des derniers vaisseaux qu'ils ont livré, qui s'appelle le Mercury Star Runner, qui est en fait un vaisseau de contrebande un peu comme le Faucon Millennium dans Star Wars. Et là, on touche du doigt un des soucis majeurs du jeu. C'est la priorité qui semble pas être l'espace, mais plutôt les vaisseaux. Actuellement, il y en a 110 disponibles, des vaisseaux.
110 vaisseaux dans Star
Citizen. C'est énorme. Toutes versions confondues. Mais tu vois, t'as un vaisseau, par exemple, qui va avoir une version Executive Officer.
Et qu'on paye cher.
Bon, ça, je vais pas revenir dessus. Mais donc, c'est normal, effectivement, que les vaisseaux soient aussi nombreux, puisque ce sont les vaisseaux qui représentent la principale source de revenus de CIG. Après la campagne Kickstarter initiale qui a rapporté autour de 6 millions de dollars, qui était un record à l'époque, je m'en rappelle, CIG s'est mis à vendre des vaisseaux pour supporter le développement sur leur site. Ils comptent actuellement 3 millions de backers et 356 millions de levées. Mais en fait, ce chiffre est sous-estimé. Il se murmure qu'on serait plus proche des 500 millions, en fait, que des 350 amassés depuis le début du projet. C'est colossal. 1,5 milliard, vous vous rendez compte? 1,5 milliard de dollars pour un jeu vidéo.
Je sais pas si c'est un jeu qui atteint ce budget. Il y a des jeux qui ont atteint ce budget, mais avec le marketing. Ouais. Mais sans marketing, en développement pur,
C'est incroyable, hein, c'est incroyable.
Et, gigantesque.
Et après, maintenir, ils ont pas tout brûlé encore.
Il y a des rumeurs.
Il y a des galères.
À chaque fois qu'il est dans son nouveau vaisseau, tu te dis,
maintenant. Ils ont payé la Ferrari, hein, parce qu'ils se sont payés des Ferrari. Et pour maintenir cette pompe active, le studio donc, n'a de cesse de proposer toujours plus de vaisseaux aux backers au détriment du reste. On a des vaisseaux disponibles qui sont spécialisés pour des mécaniques de jeu qui ne sont pas encore implémentées. Visuellement, le jeu est super. Les designers ont fait un boulot incroyable, vraiment. Le jeu est très très beau.
Vu qu'ils vendent des vaisseaux, ils vont faire du vaisseau porn.
Ah ouais,
ouais. Non mais du, même du station porn, etc. Je veux dire, les environnements sont superbes. C'est vraiment... moi, je trouve que visuellement, le jeu est très, 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 très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Donc, les déconnexions serveur, donc l'erreur 30 000, l'erreur 30K, comme on l'appelle, sont tellement fréquentes que c'est impossible de te lancer dans une carrière de quoi que ce soit. Par exemple, si tu fais du trading et que tu te prends une 30 000, tu perds la marchandise que t'as achetée, tu perds la somme que t'as investie, donc en fait, tu repars à zéro.
C'est Dark Souls, le truc.
Mais ouais, c'est Dark Souls, hein. Mais voilà, c'est pas voulu dans les design notes. Alors, généralement, dans ce jeu-là, on se lève, on prend un ascenseur, on prend un métro, on prend un autre ascenseur, on arrive dans son vaisseau, on décolle, on utilise une interface graphique qui est... très temporaire, ils te font bien comprendre que ça sera pas la version finalisée, sauf que ça fait 8 ans qu'elle est pas finalisée, qui est absolument pas pratique. On choisit une mission, on va sur une lune, on se pose, et puis on tente de faire la mission qu'on a choisie. Une fois sur deux, le jeu aura planté à un moment dans ce que je viens de vous décrire. En revenant dans le jeu, vous aurez donc sûrement perdu la marchandise achetée, ou vos armes, ou votre équipement, ou l'ensemble. Alors au final, on prend pas de mission. En fait, on teste le côté sandbox du truc. Alors on essaie de se regrouper avec ses potes en orbite au-dessus d'une planète. Tiens, viens dans mon vaisseau. Tiens, je vais dans le tien. Ah, essaie de rentrer ta buggy dans mon truc. Voilà, bon, c'est ça soit she said aussi. voilà, on fait en fait, c'est même plus du gameplay émergent, c'est du gameplay ce qui reste à faire finalement.
C'est du gameplay salle d'attente quoi.
Oui, voilà,
vraiment la salle d'attente et tu dis je vais lire un magazine en attendant de faire les vrais trucs quoi.
C'est ça, voilà. Donc là, par exemple, avec la version 3.13, ils ont livré un système de grottes et de cavernes et on peut explorer des grottes et des cavernes à plusieurs. Mais voilà, donc on le fait, mais jamais on se dit que le jeu pourrait sortir en l'état. Et pendant qu'Elite propose un gameplay FPS abouti, que No Man's Sky le propose déjà, eh ben on s'inquiète pour Star Citizen, auquel le jeu propose des intérieurs parfaitement modélisés. Quand Elite, Odyssey a décidé lui de faire complètement l'impasse dessus, ok. Mais Frontier a livré un jeu qui se concentre sur l'essentiel, s'amuser, explorer, découvrir, au lieu de rester à se promener dans son vaisseau en théorie craftant des interactions futures qui pourraient avoir lieu. Et sous ce panneau, je pourrais cacher quelqu'un, ça va être super, génial. Les joueurs de Star Citizen, pour moi, c'est un peu des chats d'intérieur. Ils ronronnent à chaque nouveau vaisseau livré, ils aiment se promener dans les coursives et pièces de vie, se frottant aux encadrements de portes, voilà. Par exemple, on a le 890 Jump qui est un genre de yacht volant qui comprend un sushi bar avec une table design, des chaises design et des bouteilles de whisky japonais modélisées jusqu'aux étiquettes, hein, derrière le bar, sur les étagères.
Il y a tout sauf le jeu, j'adore, il y a tout sauf le jeu.
Voilà, les joueurs d'élite, ouais, c'est plutôt des chats de gouttière, toujours fourrés dehors, à cavaler partout. Le whisky, ils le regardent pas sur une étagère, puisqu'il y a pas d'étagère modélisée, il y a même pas de bouteille, on s'en bat les couilles. Par contre, ils vont le chercher à 200 années-lumière de là et ils ramènent des caisses dans leur soute en esquivant les pirates, les patrouilles de sécurité, pour pouvoir leur vendre au marché noir dans un système où la consommation d'alcool est illégale. Un titre propose des vaisseaux de contrebande, l'autre propose de faire de la contrebande. Il y a une petite nuance, je vous laisse choisir quel cheval il faut suivre.
Merci mon bon Daz pour ce point sur...
Voilà, on en reparlera dans 6 ans.
Tous ces jeux dans 6 ans.
Ou Quête Latérale 13 peut-être.
Quête Latérale 13, c'est les jeux ambitieux de cette génération-là, il faut quand même bien le dire.
Oh bah là on a sauté une ou deux générations.
J'avais une grosse question là qui me vient immédiatement quand tu m'as parlé d'Elite, c'est ça marche en VR ton truc là ou pas?
Alors le module FPS, ils sont conscients que du FPS dans un casque de VR t'as envie de dégueuler.
Okay.
Donc en fait ce qui se passe c'est que Elite de base est conçu pour la VR depuis les origines et en fait dès que tu passes à pied en fait ils projettent l'écran dans ton casque mais tu joues à plat.
C'est une super idée.
Bah comme ça ça t'évite de l'enlever. Ça t'évite de l'enlever, de le remettre.
Parce que le FPS si tu restes en FPS dans Elite en fait tu vas devoir enlever le casque parce que tu vas être mal.
Tu vas vraiment être très mal.
Bah au moins t'as un système où t'es pas mal.
D'accord, ok.
Donc voilà, ils disent c'est je pense qu'ils vont quand même sortir un full FPS. Mais à mon avis, ça va être la gerboulade. Hein.
FPS en VR,
ouais, c'est insupportable.
C'est affreux.
J'ai une remarque
C'est pas Half-Life Alyx.
J'ai une remarque quand même. Bon, Elite, j'aime bien. Mais pour moi, il manque un truc que je cherche dans une saga spatiale. C'est, je vais dans un endroit, il y a quelqu'un qui me parle. et qui me dit salut, viens, je te fais visiter un peu la station. Et ici, on aime ça et on fait ça. Et tu ouais. t'as pas envie de travailler pour moi.
Mass Effect.
Et ils ont, moins que ça parce que c'est quand même très verbeux Mass Effect. Mais la et en fait,
dans Odyssey,
et en fait dans Elite, tout est systémique dans Odyssey et t'as un système où t'as une génération, enfin t'as un commandeur, t'as des factions dans chaque station,
ouais.
mais c'est toujours la même chose. Enfin, tu vois, c'est transparent. On voit le mécanisme et limite, je pourrais le coder le soir. Ouais, tellement c'est vraiment automatique.
C'est un peu différent. T'avais des archétypes sur Elite, le jeu, enfin, le jeu Elite Dangerous.
Ouais.
Là, en fait, ils ont été obligés quand même de flesh out un peu le truc et de mettre des vrais PNJ qui te parlent avec un vrai doublage. Tu vois, c'est pas un.
Ouais,
c'est
ouais,
pas
mais
un
role of text, je veux dire, c'est bonjour, voilà, vous êtes inconnu dans la station. Enfin, tu vois, t'as le statut inconnu, connu, et il y a des différentes actions par rapport à ça.
Ouais.
Mais en vrai, c'est une station, c'est comme 10 000 stations, c'est toujours le produit du procédural. Et effectivement, pour moi, au lieu de faire des space legs, j'aurais vraiment, et ça aurait pas coûté cher, hein, je pense, j'aurais vraiment mis la prio sur juste de la génération procédurale de contexte de station ou même prendre des écrivains pas chers.
Ça fait combien de temps que tu n'y as pas joué alors? Parce que des stations, tu en as 6 ou 8 types différents, agriculture, tourisme, machin, etc. Ils ne vont pas te parler de la même chose. Des outposts dans Elite Odyssey, tu as des fermes hydroponiques, tu as des trucs miniers, tu as des trucs.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des machines. Genre, moi, j'ai
vu le contact humain.
Ouais, je vois ce que la.
Mais
j'ai envie de me coucher le soir et de me dire putain, mais ce mec, c'est mon pote, un peu comme Jackie Wells dans Cyberpunk, c'est vraiment mon super ami.
Seul dans Elite, voilà. En fait.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que.
Ne comparez pas un RPG solo.
Bah oui, tu compares Cyberpunk qui est un scénario. Game.
Mais en vrai, ça coûte pas si cher de mettre de la vie dans cet univers, et c'est pas la prio. Tu vois, en fait, de la même façon qu'on dit, bah, Star Citizen, ils ont pas fait la prio sur le systémique du trading, par exemple, ou sur l'interface, pas la prio. Et ben, en fait, dans Elite, ils ont fait la prio sur le Space League. Très bien, tant mieux pour vous. Moi, tant qu'il n'y a pas cet aspect un peu Star Wars ou même Mass Effect dans lequel on peut,
mais oui, mais
on
là,
peut
là,
se coucher
c'est...
le soir et dire ah j'ai des copains dans cette station, ben moi ça me plaît, voilà.
Ben là c'est enfin c'est tu touches du doigt carrément la notion même de design du jeu, c'est-à-dire que le truc n'est pas fait pour ça. Après, tu as des stations, moi je suis posté toujours dans la même station, dans le même système, tu connais les voix, parce qu'il y a quand même beaucoup, en fait on se rend pas compte, hein, mais il y a pas mal de doublage dans Elite, que ça soit les voix que t'entends en fond sonore, qui ont toutes des accents différents, t'as des accents russes, t'as des accents asiatiques, t'as des accents américains, anglais.
Ces accents sont-ils offensants ou pas ?
Non, justement, les mecs sont très forts. De toute façon, tu sais très bien que sur le sound design, les mecs de Frontier, ils sont loin devant.
Ouais.
Et effectivement, ce qui m'a choqué quand j'ai joué à Odyssey, c'est que je m'attendais à la même chose, c'est-à-dire bon bah mon vaisseau finalement c'est un corps de joueur au lieu d'être un vrai vaisseau.
Ouais.
J'ai les mêmes interactions avec des panneaux de commande, etc. Et en fait non, t'arrives dans la station. T'as une zone bar avec de la musique cheesy éclatée au sol, mais c'est volontaire, c'est ridicule en fait, dans tout ce que ça propose comme contexte pour un jeu de l'espace. C'est vraiment de la musique, tu te dis ouais, je l'entendrais dans Star Wars, tu vois, tellement. Enfin, c'est volontaire.
Ouais.
Et tu as plein de PNJ, tous doublés, qui te proposent des missions pour lesquels tu peux négocier ce que tu pouvais pas faire avant. Là le mec te propose un prix, tu peux dire non, va te faire foutre, je bouge pas pour aussi peu, donc paye-moi plus. Là le mec peut dire bah toi tu vas te faire foutre. Enfin voilà, il y a des interactions. Moi je trouve ça cool, et en fait comme le jeu fonctionne, je pense que de toute façon ça peut que up. Tu peux pas, ils ont un corps de jeu qui marche. Rajouter du doublage, rajouter des trucs comme ça, ça devrait pas être trop problématique pour eux en fait.
Vous l'avez compris, Das croit à mort.
Moi, j'y crois
en Elite.
Moi, j'y crois
ici, on a compris la tristesse.
Je crois à Star Citizen aussi, hein. Mais
il y a aussi deux trucs qu'il a pas dit. On peut se balader partout sauf dans son vaisseau, n'est-ce pas?
Bah si, je l'ai dit ça justement.
Ah, non, je l'ai pas bien entendu. Non, et on peut se balader
pas,
partout.
Parce que depuis le début, tu n'écoutes pas.
Et deuxième chose, on peut pas non plus, contrairement à Star Citizen, être dans l'espace, enfin sauf erreur de ma part, t'es dans l'espace, t'es devant un astéroïde, je sors de mon vaisseau et je vais essayer d'arriver à l'astéroïde.
Sortie extravéhiculaire. Oui. Mais je pense et je crois que Frontier a dit que de toute façon ça serait pas disponible au launch, mais c'est évidemment la brique qui manque.
Débute, ouais, je vois.
Après, encore une fois, moi, les gens qui insistent sur se promener dans son vaisseau, sincèrement, effectivement, t'as un côté Stéphane Plaza immobilier.
Bah ouais.
T'arrives dans le vaisseau, non, tu dis c'est génial, regardez, il y a 50
après,
portes.
Après, Star Citizen a mis tellement, tu vois, la référence là-dessus, c'est super cool.
Mais en fait, le problème, c'est que à jouer, c'est un enfer.
Non,
c'est-à-dire
que tu
le montres à quelqu'un occasionnellement, le mec va dire waouh putain, c'est génial. Franchement, rentrer dans un vaisseau qui est éteint par l'arrière, traverser 250 mètres de coursive à la con pour arriver jusqu'au poste de pilotage, allumer le truc alors que tu pourrais te TP.
Alors que là, tu touches ton vaisseau, t'appuies sur un bouton et c'est bon, c'est parti.
Alors, le middle ground qui serait pour moi idéal, c'est effectivement que tu puisses rentrer dans ton vaisseau depuis la surface, arriver dans un genre de lobby dans ton vaisseau, et ensuite, t'as des portes, genre salle des machines, poste de commande, soute, et juste, tu choisis une porte et t'es TP à l'endroit où ça va, où tu vas. Plutôt que de te taper trois ascenseurs, il y a des vaisseaux, t'as deux ascenseurs dans un vaisseau.
C'est, ah c'est ouais quoi ?
Mais oui.
C'est si grand que ça, les
vaisseaux. C'est gigantesque. Dans Star Citizen, ils sont gigantesques. Le 890 Jump, c'est un yacht. Et le truc, il doit faire, je sais pas, 250 mètres de long, il y a 5 étages.
De réalité, un anaconda fait 700 mètres de long.
Est-ce que non, 110.
Ah, 110 seulement ouais.
Oh, bah, ça pardonnez-moi.
Mais déjà, 110 mètres, je peux dire que là, quand t'es dans Odyssée, au pied de ton anaconda, et que le truc pour te TP à l'intérieur, il est à l'avant du vaisseau, tu cours sur le landing pad.
Oui, d'accord,
fais,
je vois ce que tu veux dire.
Long, quand même.
Moi, je voyais des petits vaisseaux.
Non, c'est gigantesque.
Non, non, c'est énorme. D'accord.
Excusez-moi, je vais encore parler de mon jeu à moi, mais dans Subnautica.
Ah
T'as un sous-marin qui s'appelle Cyclops. Ou
c'est vrai qu'on parle jamais de Subnautica.
Effectivement, quand tu rentres dans le Cyclops, enfin, tu vois, tu peux te balader dans le Cyclops, tu peux ouais. même genre, construire un lit dedans ou même accrocher des tableaux, peu importe. Mais en fait, la gestion de l'intérieur du Cyclops, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, le Cyclops dit il y a un feu à bord. Putain, où, tu vois, et le feu il est en train de prendre. Effectivement, faut que tu ailles choper un extincteur et trouver le feu. Tu sens la fumée, tu dis c'est par là, ok. Ouais. Et après, tu fais des trucs. Si tu as une batterie à remplacer, parce que ça arrive souvent, bah, tu la vas la chercher, tu vas la remplacer, tu peux racheter des placards. Enfin,
mais, je suis 100% d'accord avec toi.
Il veut mettre FTL dans Elite Dangerous.
Non, mais en fait, ce que
c'est mon fantasme personnellement.
Non, mais ce que Fibre décrit là. C'est par exemple le genre de situation que tu as quand t'es dans un outpost. C'est-à-dire que maintenant, il y a des missions dans Odyssée où on te dit prenez cette batterie là, ce cœur nucléaire à la con là, mettez-le dans votre sac à dos et allez me remettre le courant dans tel outpost. Et effectivement, il y a des incendies, tu dois sortir du truc, du module d'habitation, trouver la ressource d'oxygène, faire sauter les panneaux, etc. Donc tout ça, c'est des boucles de jeu que tu as dans le jeu maintenant. Sauf qu'actuellement, elles sont uniquement sur des bâtiments qui sont extérieurs. Non. Mais la boucle est là. Les interactions sont là, donc rien n'empêche les mecs de proposer ça dans 2 ans en disant tiens regardez maintenant parce que je suis d'accord avec toi, réparer une avarie dans ton vaisseau c'est très plaisant.
On suivra ça avec mais attention oui, Daz, oui. De toute façon tu nous en reparleras
d'ici le
mois ou deux.
Exactement.
On te fait confiance, merci beaucoup. On va marquer la deuxième pause et on a pris des questions FAQ incroyable des auditeurs de Quête Latérale. Alors le compte de qualité, on sait tous qui est derrière évidemment, qui a lancé l'initiative.
Je demande
et
qui.
J'ai retiré 2 questions de tout ça puisque le reste était des messages d'insultes envers Fibre Tigre évidemment. La première question c'est est-ce qu'un jeu vidéo vous a un jour donné un fou rire, genre un vrai fou rire, et si oui pourquoi? Tour
de table. D'accord, que c'est une vraie FAQ, on répond vite. Hein. On part pas sur des débats à l'infini.
Non,
hein.
Parce que là, il y a une chronique encore à faire. Il est déjà 21h13.
Moi, ça m'est arrivé avec GTA. GTA San Andreas et GTA 4. Je sais pas, il avait pas de nom, hein, GTA 4. Non,
voilà. GTA 4.
Donc, il y avait des dialogues. Dans San Andreas, il me semble qu'à un moment donné, tu croises un mec de la CIA et le dialogue est hilarant. Voilà, sur l'espionnage, tout le monde s'espionne, etc. Et je me suis pissé dessus parce que c'était vraiment. Enfin, c'est la force des GTA, c'est les dialogues, c'est l'écriture. Et moi, j'ai tapé des barres sur des GTA.
Raph.
Pas dans GTA 5, par contre, malgré certaines situations qui étaient rigolotes, mais pas au point de faire un fou rire.
Dans l'histoire, je sais pas trop, on rigole dans GTA 5. Mais Fibre ?
Alors, je ris parfois.
C'est vrai ?
Ça t'arrive.
Vas-y, fais voir un coup, là.
Non, mais je me souviens de blagues dans Monkey Island 2, par exemple. Je vais pas épiloguer, mais la dernière fois que j'ai ri, c'était dans un jeu qui s'appelle Wondersong. Et donc, on a un personnage et on arrive devant... Alors, je suis désolé, ça va pas être drôle quand je vais le raconter, mais moi, ça m'a bien fait rire. On n'a pas d'argent, d'accord ? Et on arrive devant un vendeur de café et il dit « Vous voulez du café ?» Alors, je dis « Oui ». Et alors, il me dit « Bah, est-ce que vous voulez 100 grains de café ?» Alors, je dis « Oui, mais j'en voudrais plus. » Alors, il dit « Ok. » Vous en voulez 200. Et à chaque fois, tu as le dialogue, j'en veux plus. Et à chaque fois, le marchand réagit d'une façon différente. Ok, je vais vous mettre 3 sacs, mais vous allez pouvoir les transporter. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais vous pouvez m'en donner 400 et ça peut monter genre jusqu'à 30 000. Et à la fin, à 30 000, il dit, écoutez, là, ça fait vraiment beaucoup, donc je vais vous livrer ça le mois prochain. Et le mec, il dit, de toute façon, j'ai pas d'argent. Et moi, je trouvais ça hyper drôle. Et à chaque fois qu'on augmentait, ça, voilà, ça me faisait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait ça en stream. Ils m'ont vu rire, voilà.
Genre, ils m'ont vu rire. Genre, je peux prouver que je sais rire. Hein. Des gens m'ont vu rire.
Vous prouvez.
Des gens m'ont vu rire.
Non, c'était vraiment très drôle.
Suzy, une idée ?
Une idée, rire, moi ?
Sur non. Un jeu qui t'a fait
un jeu où j'ai beaucoup ri. Alors, c'était un petit jeu tout peu nous sur le PSN, sur PS3, qui s'appelait Death Spank.
Voilà. C'est Gilbert, non ?
Tout à fait. Ouais. J'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup regretté qu'il ne soit pas traduit et pas par moi.
Ah ouais.
Qu'est-ce qui est drôle ?
c'est vraiment une, toute une série de jeux de mots à la con et de quiproquos. C'est ouais, intraduisible. Je dis ça en même temps, je suis finalement contente d'un sens de ne pas l'avoir traduit. C'est absolument intraduisible, mais vraiment que des jeux de mots complètement nuls. Le jeu en lui-même était sympathique sans plus, mais finalement, je l'ai fini entièrement juste pour faire toutes les quêtes. Et vraiment beaucoup de jeux de mots et je regrette ce jeu. Voilà, je le cherche amoureusement.
Très bien, l'âme.
On parle de jeux qui te font rire volontairement.
Ouais.
Oui. Parce qu'après, tu vois, Mario Star Kart, Citizen. Je me suis tapé des barres de rire.
Ah bah non, mais, pas oui, forcément.
Il y a Skate aussi. Ah, oui, le problème, c'est qu'après, du jeu, t'as plein de jeux
les
multi.
Les gars, amusez-vous dans la vie. Parce que moi, j'avais il n'y a pas précisé volontairement.
Ah non, bah, non, mais c'est différent parce qu'il y a plein de jeux qui m'ont fait taper des barres de rire.
Bah oui.
Genre, s'affronter à Street Fighter avec Daz, on s'est tapé des barres de rire. Mais parce que c'est pas parce que le jeu est drôle. C'est parce que l'expérience qu'il crée nous fait rigoler. Donc effectivement, en ce moment-là, je peux avoir plein de jeux.
Bah, c'est bon, moi j'ai Star Citizen dans ce cas-là. Quand tu tombes au centre d'une planète, c'est génial, tu rigoles.
Mais dans les jeux qui m'ont fait rire parce que c'était voulu pour le jeu, récemment j'ai fait There Is No Game, qui est un jeu complètement méta, qui est une sorte de Stanley Parable du point and click. Si,
français,
c'est Camouflox. Et donc c'est un point and click avec une sorte de jeu qui refuse que tu joues au jeu en te faisant croire qu'il n'y a pas de jeu. Parce qu'il dit non mais clique pas là, il n'y a pas de jeu. Et tu rentres dans un tunnel, un rabbit hole.
C'est trop bien. Hein.
Un rabbit hole. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Ouais, j'ai pas encore fini le jeu, mais c'est un peu comme Stanley Parable. J'ai vraiment rigolé et je me suis dit, ok, ils sont drôles. Mm. Les développeurs ont beaucoup d'humour et ça marche, etc. Mais après, effectivement, des crises de fou rire avec des jeux. Moi, à FIFA, je me suis tapé des barres de rire ou à PES, enfin beaucoup de jeux de sport. Oui, tennis.
C'est pas à cause du jeu. Voilà. C'est l'expérience. Enfin,
parce que le jeu, il est drôle et ils ont raison. C'est cool, le jeu est fun. Mais effectivement, j'imagine que la question, c'était plus de dire.
Est-ce qu'un jeu t'a fait rire
Il y avait une blague de ouf
ouais,
ou.
Son scénario ou. Ouais.
Et toi, Ken ?
Moi, alors, le premier jeu auquel j'ai pensé, c'était Street Fighter 4. Dans Street Fighter 4, vous aviez un mode cinéma. Donc, tu pouvais regarder des replays complètement aléatoires de joueurs de Street Fighter.
Ah oui ?
Et nous, on se posait devant.
Ah, tu commentais ça, non ?
On se mentait. Non, juste, on se mettait devant avec un kebab et on regardait ça. Et mon gars, jamais on termine notre kebab. Tellement drôle. Mais
qu'est-ce qu'il y a de drôle, tu peux nous expliquer?
Ça joue n'importe comment, c'est rien n'a de sens, il y a aucun connecteur logique entre chaque action.
Bah, on appelle ça le street club hein.
C'est à mourir de rire et on se tapait des
barres. En fait, c'est comme si tu voyais des enfants de 3 ans jouer au foot.
Ouais.
C'est ça, voilà. Okay.
Ouais. Autre chose très nerveux, Super Mario Maker est un jeu qui m'a fait beaucoup rigoler hein.
Comme ça c'est pour éviter de te tirer une balle. C'est rire nerveux,
c'est le rire qui précède les larmes en fait.
Et le je pense que le dernier jeu qui m'a fait rire, je me souviens vraiment d'avoir rigolé parce que les dialogues sont bons, les blagues sont bonnes, c'est le dernier Paper Mario. Le dernier Paper
Mario. Ah, il paraît que c'est hyper drôle, Paper Mario.
Le dernier Paper Mario, il m'a fait mourir de rire dans ses dialogues. En mode, on est un jeu mignon, mais en fait, on critique tout ce qui va pas au Japon, dans la société japonaise et tout.
Animal Crossing,
on y va gros. Animal Crossing, c'est un jeu qui m'a fait rire aussi. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais Paper Mario, plus parce que c'est vraiment des dialogues. Il y a vraiment des dialogues en mode sketch. Totalement dans le jeu, ouais, ça m'a fait beaucoup beaucoup marrer. Voilà, testez-le. C'est pas un jeu extraordinaire, mais un jeu drôle, vraiment un jeu drôle. Bon, il y avait une deuxième question. On va passer.
Vas-y, dis-la. Il est que 21h. D'habituellement, il est 23h.
Vous avez raison. Alors, plus, la réponse
du coup,
est très courte.
J'envoie un petit message d'alerte peut-être à Sam ou quelqu'un parce que les cuisines à un moment vont fermer parce qu'on est en confinement et ça ferme pas à 23h comme bon vieux temps. Donc, si on me commande à manger.
Il va falloir se dépêcher.
La question ou la nourriture?
Let's go. Bon. Voilà. Organisez-vous, bien entendu. Il y a un pragmatisme qui s'installe à ma gauche.
Non, mais on fait une petite pause juste après la pause.
C'est ça. Un espoir. Comment initier un adulte non gamer au jeu vidéo? Nous demande Mister Iggy. Voilà. Je pense qu'on peut leur répondre. Qu'on a fait
d'écouter les Starter Packs.
Voilà, une grande série de podcasts qui s'appelle les Starter Packs. On avait fait ça durant le confinement, justement pour alimenter un tout petit peu la base de données de Quête Latérale qui avait des difficultés évidemment à se réunir ou à créer des conditions idéales pour votre oreille. Ces Starter Packs montrent et parlent de jeux vidéo qui sont vraiment idéal selon nos points de vue à tous pour commencer le jeu vidéo, initier quelqu'un au jeu vidéo. On y explique pourquoi et on explique aussi comment se mettre à ce genre de jeu.
Après, moi je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est pourquoi vouloir absolument initier quelqu'un à un jeu vidéo sur un jeu vidéo un peu simplet. Tu vois, pourquoi est-ce que par exemple quelqu'un qui débute dans le jeu vidéo, il pourrait pas jouer à Valheim ou à des trucs qui sont un peu plus énervés, sur lesquels tu peux travailler pendant 12 heures.
Mais parce que ça marche pas. À partir du moment où tu as une gestion de caméra, si tu n'as jamais joué aux jeux vidéo, oui, c'est mort.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment la partie contrôle.
Moi, c'est ce que je dis depuis un an. J'initie quelqu'un aux jeux vidéo.
Ouais.
Et qui ma compagne.
Ah.
Et qui du coup a.
Le grooming.
Non, le grooming, c'est. Bon, bref.
Mais lui répond pas.
Mais je sais.
C'est pas possible.
Après, il va me retweeter en plus.
Il a pas. Ok. C'est ça.
Mais non, mais par exemple, je sais que la mécanique de jeu, exactement, donc le challenge physique, c'est un truc qui repousse les gens.
Ouais.
La précision, le stress, etc., c'est pas comme ça que tu vas faire aimer le jeu vidéo.
Non, ça, je suis d'accord.
Parce que déjà, la personne, le fait qu'elle prenne une manette entre les mains, déjà, une manette aujourd'hui, c'est 18 boutons entre les mains, la différence entre L2, L1, L3, enfin, c'est débilement complexe aujourd'hui une manette
de jeu.
Un clavier souris, j'en parle même pas. Donc, il y avait déjà des mois l'idée de faire rentrer quelqu'un par plus. L'expérience et le ressenti que notamment la mécanique de gameplay. Et donc,
non, mais je suis d'accord que tu fais pas démarrer quelqu'un sur Céleste ou Hades, tu
exactement.
Vois.
Et donc, on revient sur les trucs de Starter Pack. J'ai fait du Monument Valley, on a fait du Her Story, des choses comme ça qui sont plus des expériences d'interaction que le jeu vidéo auquel on pense. Et deuxième truc aussi que j'ai trouvé très important, c'est. Bon, après. Ma compagne a la chance que moi je suis dans le jeu vidéo, donc elle a beaucoup de choix de machines et d'expériences. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que la personne, il faut lui laisser aussi le droit d'abandonner un jeu au bout de 5 minutes.
Carrément.
Si ça lui plaît pas, et pas lui mettre la pression en disant non, mais vraiment c'est génial. Et le fait que quand une personne teste un jeu et qu'elle se dit en fait, je teste un jeu et j'ai pas aimé et je passe à autre chose et je m'en fous, etc., ça enlève aussi vachement de pression. Et je pense que. Un des trucs dont je me suis rendu compte, parce que j'ai souvent voulu faire aimer le jeu vidéo à des gens, tu vois.
À la sixième heure, tu vas adorer, comme voilà. Lui avec The Witcher 3, par exemple.
Donc, mes frangins, ma famille, des potes, etc., c'est exactement ça, c'est te dire, non mais le jeu est génial, vraiment, accroche-toi. Et non mais vraiment, au bout de deux heures, tu vas faire un Hadouken, c'est génial. Non, en fait. Et en fait, les gens, ils sont dégoûtés du jeu parce que tu les mets devant des mécaniques d'apprentissage, des mécaniques de punition et de récompense qui appartiennent aux gens qui sont habitués à ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que le plus important, c'est de se dire, tu dois pouvoir butiner un jeu de manière mais tellement légère que tu peux juste regarder l'écran et te dire je sens pas, et c'est ce qu'on fait en fait, et du coup il y a beaucoup moins de pression à dire vas-y on lance ça pour voir, et déjà moi ça m'a vachement aidé.
J'irai juste encore plus loin en disant que si quelqu'un a pas vraiment envie de jouer à des jeux vidéo,
jouez à Outzer.
Non, ne jouez pas à des jeux vidéo, parce qu'en vrai des jeux vidéo ça va être des centaines d'heures si vous y mettez.
Non,
et effectivement si t'es vieux, si t'es un boomer, si t'aimes les livres, les films, regarde des films, parce que à chaque jeu vidéo que tu vas faire sera un livre en moins que tu vas pas lire.
Mais c'est n'importe quoi.
Ah oui, moi,
ça c'était nul à chier. Ça.
C'est n'importe quoi.
C'est vrai, ça
vous. Non, mais c'est éclaté au sol comme truc. Qui t'a dit t'es obligé de jouer 150 heures? Regarde, j'ai joué à The Witcher 8 heures, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté. Voilà, pour moi je l'ai fait le jeu. Tu vois,
mais tu dis quoi? Tu dis qu'on a moins de. On gagne moins à jouer à un jeu vidéo qu'à lire un livre.
Mais fouettez-le.
Non, pas du tout. Je dis simplement que moi.
Pas du tout, bah si, c'est ce que tu dis.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Exactement ce que t'as dit.
Par exemple, je regarde pas ou très peu de séries télé. D'accord, je suis complètement largué quand vous parlez de séries télé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon temps libre, je l'investis dans le jeu vidéo, et c'est un choix. Mais je sais que, enfin,
t'as pas le temps de tout faire.
Non, mais voilà, mais on n'a pas le temps de tout faire. Et si quelqu'un, j'ai pas dit que je le dénigre. Je dis que s'il est pas chaud pour faire du jeu vidéo, pourquoi lui mettre le nez dans le jeu vidéo alors que le mec il kiffe des livres, des films.
On dit pour quelqu'un qui souhaiterait s'y mettre.
Souvent, les personnes sont voilà, déjà quelqu'un qui souhaite s'y mettre, et souvent encore une fois à l'inverse. Des personnes ne sont pas chaudes pour se lancer dans le jeu vidéo parce que il y a des stéréotypes qui sont liés à ça de ces personnes, et notamment.
Non, t'as des personnes aussi qui n'aiment pas jouer.
Oui,
par exemple, ma meuf à moi, elle en a rien à foutre, et j'ai jamais forcé. Genre, ah, si joue avec moi, c'est intéressant. C'est pas grave. Il y aura peut-être effectivement une expérience qui va lui plaire, mais je veux dire, faut pas mettre de pression. Mais c'est pour ça que je disais, je pense que tu peux commencer sur un jeu vidéo, même si c'est pas forcément un truc ultra simple.
Oui, mais et dans son design, surprendre la personne, tu vois, quand on a fait Her Story, qui est un des premiers jeux qu'on a fait, et Her Story, c'est un moteur de recherche avec des vidéos, globalement, et qu'on a fini Her Story, et donc j'ai dit à ma meuf, j'ai dit, bah alors, viens de finir un jeu vidéo. Et son stéréotype est de dire, attends, j'ai fini un jeu vidéo? Tu vois, parce qu'il y avait, pour elle, l'idée de finir un jeu vidéo, c'est un truc un peu hardcore tout le temps, etc. On vient de vivre une expérience de jeu vidéo interactive et tout. On s'est éclaté, on a réfléchi, on a galéré, on a réussi. Puis là, bah, c'est la fin, en fait, tu vois.
Complètement.
Et elle disait, ah bah oui, en fait. Tu sais, il y avait un truc qui se désacralisait. Il y a beaucoup de stéréotypes qui étaient liés à ça, tu vois.
Ça va, en fait.
Exactement. Et tu vois, quand on a joué à Animal Crossing, qu'elle a squatté énormément. Et d'ailleurs, elle a eu beaucoup de mal avec la caméra, la fausse perspective du jeu.
La caméra,
ouais. La caméra, le funk du jeu, ça la rendait folle. Elle savait jamais où elle allait creuser un trou dans le sol.
Ça, plus un Joy-Con Drift.
Voilà. Et pareil, quand elle m'a dit, mais du coup, on finit un moment, et je lui ai dit, mais il n'y a pas de fin dans Animal Crossing. En fait, Animal Crossing, c'est
une routine.
Oui, oui, mais c'est pas vrai.
Non, mais si.
Il y a une fin quand tu veux vraiment grinder le truc et changer la date de ta console pour aller plus vite.
T'as des crédits de fin affichés, t'as une fin du jeu.
Ah ouais?
Mais, non, mais quand le crédit s'affiche, c'est pas pour ça que le jeu est fini. T'as encore des choses qui arrivent.
Ah, je dis pas le contraire, mais la fin du jeu, c'est quand les crédits
de fin s'affichent. Oui, il y a Pépé le chien qui enchante avec un générique de fin.
Quand t'arrives à faire venir
Pépé?
Ouais.
Non,
pas Pépé,
Kéké.
Quand t'arrives à faire venir Kéké sur ton île, c'est la fin du jeu.
Ah d'accord. Ah, je savais pas.
C'est la fin des choses à débloquer.
Oui, après le jeu continue et...
Après tu fais ta vie, oui.
Mais disons que quand je lui expliquais qu'il n'y avait pas de challenge final ou de finalité au jeu, et que la finalité du jeu c'était...
Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de
scoring. C'était d'entretien des relations et de venir s'échapper, etc. C'était du jardinage en fait.
Ouais.
Et pareil, tu vois, et juste quand tu parles de ça, quand tu expliques aux gens et que tu déjoues aussi, et que tu montres aussi la richesse du jeu vidéo, tu vois, dans Monument Valley, ce que je lui expliquais au-delà du fait que le jeu est beau, je lui expliquais que dans le jeu tu ne peux jamais te bloquer. La beauté du Monument Valley, c'est pas la beauté visuelle du jeu. La beauté, c'est que le level design, il est crafté vraiment comme un petit bijou parce que tu ne peux jamais être bloqué, tu ne peux jamais mourir dans Monument Valley, tu peux jamais te dire, ah, faut que je recommence le level parce que j'ai déclenché des trucs. Et c'était vraiment, j'avais l'impression que le visage de la personne s'illuminait plus que si elle avait battu un boss, en fait. Et c'est pour ça que je disais, retirer des pressions, étonner un peu les personnes, c'est aussi montrer que le jeu vidéo, c'est pas que ce que les gens imaginent. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent, le jeu de vidéo m'intéresse pas. Mais donc moi, ma compagne, elle me disait le jeu vidéo ne m'intéresse pas parce que son seul contact du jeu vidéo, c'était FIFA et Mario Kart. Voilà.
Ouais, mais je peux comprendre.
Donc, et c'est important. C'est important. Et c'est pour ça qu'encore une fois, même le terme jeu vidéo, on revient sur ce
long débat. Ah bah, c'est un fourre-tout. Hein.
Et, mais c'est aussi quelque chose qui est très connecté. C'est très, très connecté. Tu vois, Her Story, pour beaucoup de puristes, c'est pas du jeu vidéo.
J'allais le dire. Est-ce que c'est vraiment du jeu vidéo? Tu sais, les trucs narratifs très, très... très très minimaliste dans le design où t'as que des échanges de texte genre Lifeline ou des trucs comme ça où finalement
il y a
des gens mais vraiment
il y a une vidéo, c'est un jeu vidéo. Je sais même pas où je cassais la tête hein. Franchement, voilà. Moi, je joue aux échecs sur Internet.
Vous n'êtes pas obligé de jouer aux jeux vidéo. C'est mon message que je voulais dire.
Ouais, j'ai
putain,
bien compris. J'ai
le mec qui essaie de gagner de l'argent avec les podcasts.
J'ai bien compris ce message.
Non, mais il est gris en ce moment, Fibre. Je sais pas ce qui lui arrive.
Au contraire, j'ai jamais été aussi en paye avec moi-même.
Je pense que c'est l'absence de relations sexuelles. Ça doit commencer à jouer sur
la mentale. Non, j'ai très sommeil, donc vraiment, j'espère pas ça.
Ok.
Très bien. Merci en tout cas à tous pour vos questions. On refera des petites séances de FAQ puisque. Évidemment, les auditeurs de qualité ont des questions tous très intéressantes. Allez voir quand même les podcasts de Quête Latérale. Comment on avait appelé ça, rapide hein
Les starter packs.
Voilà, c'est ça.
Avec
pour
un cul.
Débuter avec plusieurs propositions. On va enchaîner avec la dernière chronique et c'est l'âme qui va nous expliquer comment gérer son backlog. Ah, quel nom barbare, backlog, ouais. L'âme.
Je risque de souvent dire aussi back catalogue parce que j'arrêtais pas de dire back catalogue, mais c'est backlog.
Ça veut dire quoi?
Alors, j'avais demandé à Suzy de traduire le.
Ah.
Je vais la faire chier toute l'édition.
Ça veut dire quoi? Oui, non, c'est ça, c'est tous les jeux qu'on a en stock et qu'on n'a pas encore fait et qu'on sait pas quand est-ce qu'on va les faire parce qu'on continue d'en acheter d'autres.
Un peu long comme traduction quand même.
Voilà. Non, mais là, j'ai pas de. Je suis payé au mot et j'ai toute la place. Alors j'en profite.
Suzy, elle a fait une daze, elle a tenté de facturer 45 euros la traduction de backlog.
J'attends mon chèque.
En français, je crois que.
Bah, c'est fonds d'inventaire, non? C'est pas genre.
Bah ouais, mais en fait, on continue, enfin, en gestion de projet, on appelle un backlog. Je veux dire, tu vois.
Oui, bah.
Le drame de la gestion de projet, bien sûr.
Oui,
évidemment. Alors, tiens, Suzy, justement, comme tu vois, on a des petits marronniers, des petites obsessions dans cette émission. Donc, Daz, évidemment, c'est des jeux de l'espace ou des simulateurs. Fibre, c'est d'aller explorer des genres de jeux. Et moi, c'est l'usage. C'est toujours pareil, c'est l'usage. Et voilà. Et dans une de mes premières chroniques, on parlait des playlists de jeux parce qu'en fait, j'essaie d'imaginer toujours comment on pourrait rentrer dans la gestion de tout son catalogue de jeux et comment on pourrait s'amuser autrement dans son catalogue de jeux. Et donc à l'époque, on était parti très loin dans la prospective pour imaginer comment des playlists intelligentes de jeux pourraient te passer de bout de jeu à bout de jeu. Ça, c'est mes chroniques du turfu qui font chez tout le monde. On fait des chroniques de 8 heures. Mais là, on va revenir sur un truc très présent.
De 8 heures, mais les playlists,
chroniques
c'était fort.
Chroniques de 8 heures, les playlists, il y a eu. Et les NFT commencent à arriver dans le jeu vidéo. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Ouais.
Acheter de l'iOS, acheter de l'engine. Bon, bref. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais bon, il y a un problème du présent que t'as évidemment très bien traduit, qui est comment tu purges, comment tu gères, comment tu écopes.
Supre. Moi, je supre.
Comment tu supres? Ah, bah, c'est marrant.
Supre.
Eh ben, on va en parler. C'est marrant. C'est un de mes conseils. Comment tu arrive à gravir cette montagne ou à échapper à cette montagne qui est ton backlog et cette fameuse montagne qui ne fait que grandir, puisque en 2018, le site Polygon s'est rendu compte que donc les 50 meilleurs jeux qu'ils avaient estimés cette année selon leur classement et selon Metacritic, en allant sur les sites d'estimation de temps pour terminer un jeu, et bien pour terminer les 50 meilleurs jeux de 2018, il y avait besoin de plus d'heures qu'il y avait d'heures dans 2018.
Ah ouais.
Évidemment, c'est un article, c'est un truc qui est drôle à faire, mais ça raconte encore une fois que évidemment, on a passé depuis longtemps la barre de il sort trop de jeux pour y jouer tous ou trop de jeux pour même jouer, les tester sûr. Aujourd'hui, puisque même les médias ont abandonné l'idée de tester tous les jeux. Mais on en était à ce point-là en 2018 et évidemment il y a encore plus de gens en 2021 qu'il y en aura en 2018, qu'il n'y a plus en avant en 2018. Donc on connaît tous le problème du backlog, évidemment toujours plus de contenu, toujours pas plus de temps, voire moins de temps qu'avant, et évidemment les deux dynamiques s'accumulent l'une avec l'autre, et de cette accumulation des deux dynamiques crée une conséquence qui est la culpabilisation, la frustration. Vraiment, c'est de se dire mais merde, j'ai toujours plus de jeux à faire, j'ai de moins en moins de temps à faire, je les croise du regard à chaque fois, je commence à baisser le regard parce que vraiment tel quelqu'un qui a abandonné son île dans Animal Crossing, il revient un an plus tard, tu n'oses plus croiser le regard de tes jaquettes qui vont te faire du passif agressif en disant mais tu m'avais acheté, on avait été jusqu'à la première base comme diraient les Américains, t'avais lancé l'écran titre, j'en ai entendu parler de toi, tu m'as ghosté pendant 6 mois. Et évidemment c'est pas du tout le but pour un loisir de devenir un devoir. Mais on en est à ça dans le backlog. C'est devenu une sorte de devoir et de culpabilité. Alors, ces derniers temps, justement, comme on a de plus en plus de contenu, et je reviendrai à la fin de cette chronique là-dessus, quand on a de plus en plus de contenu, notamment avec les abonnements, eh bien, évidemment, les services commencent à essayer de nous aider à surnager. Donc, on a vu que dernièrement, sur Netflix, il y a ce qu'on appelle les playlists random, quand vraiment Netflix a vu que tu en es au 13e étage de sous-sol de scrolling, qu'après avoir mis mes listes, reprendre avec mon profil les plus gros succès Netflix, les tendances actuelles, documentaire indien qui aurait pu recevoir des prix en Ukraine, truc américain que vous avez peut-être oublié, il a aussi tourné dans ce genre de film. Bon, à un moment ils disent vas-y, random. On se rappelle qu'à une année, Steam pendant ses soldes avait fait aussi ce qu'on appelle le grand ménage de printemps, et donc littéralement on parlait vraiment de backlog à ce moment-là, vraiment au sens grenier ou cave de jeux vidéo. Et pendant les soldes Steam aussi remettait en avant des jeux que vous aviez, que vous avez peut-être oublié, puisque il calculait les jeux sur lesquels vous n'avez vraiment pas cliqué depuis longtemps, que vous avez acheté et que vous n'avez pas fait. Je rappelle aussi évidemment qu'il y a des suggestions de plus en plus, et que dans le Game Pass il y a des suggestions de jeux, etc., etc. Ouais. En tout cas, le but du jeu de cette chronique, là, vraiment, je pars pas dans le turfu. On reste dans le présent. Je vais être vraiment dans quelque chose de très empirique, de très efficace. Une grosse douzaine de conseils pour attaquer son backlog. Le pilier, un peu, l'état d'esprit, globalement, de ces 13 conseils, c'est ça. Un, comme pour le sport, le plus dur, c'est de s'y mettre. Le plus dur, à chaque fois, c'est de dire, je vais faire du sport. Je vais me mettre en short ou je vais à la salle de sport ou que sais-je. Et une fois que tu t'y es mis, c'est plutôt agréable. Mais le plus dur, encore une fois, c'est de dire, je vais regarder mon backlog en face et je vais commencer à jouer à mon backlog et à l'épurer. Ça, c'est le plus dur, vraiment. Aussi, comme le sport, plus on progresse dans son backlog et plus c'est gratifiant. Donc, j'en reparlerai plus en détail, mais effectivement, quand on a commencé à s'y attaquer, qu'on a joué à des jeux ou terminé des jeux, on dit, hey, c'est cool aussi, c'est cool. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert en le faisant, c'est que c'est très méta. Je considère mon backlog comme ma quête principale aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très méta, c'est que dans ma vie de joueur, ma quête principale n'est pas un jeu, ma quête principale c'est ma bibliothèque de jeux. Et dedans, j'ai des jeux qui sont des main quests, des quêtes principales, des jeux qui sont des side quests, donc des quêtes latérales littéralement, et puis je considère mes games as a service, et je reviendrai en détail dessus, comme du grinding gratuit. Tout comme des fois tu vas dans un jeu et tu fais un truc vraiment, tu vas tuer 325 rats violets pour pouvoir crafter un bout de collier, et ben des fois t'as besoin d'aller faire des trucs complètement inutiles et gratuits, et tu lances Hearthstone ou tu lances Fortnite. Autre pilier central dans cette gestion du backlog, il faut trouver de la motivation et pas de la pression. Donc des fois il faut se motiver pour dire allez, je m'attaque à un petit jeu. Dès que tu rentres dans la pression en me disant attendez, il faut vraiment que je fasse ce jeu, parce que vraiment The Witcher 3 qui fait souffrir certains dans ce podcast, parce qu'on tourne autour, on le lance, on le quitte, etc.
Ouais, c'est 3 fois,
pas de pression. Et puis enfin évidemment varier les techniques, et donc je vais vous parler des techniques. Donc voilà, il y en a, j'en ai 13, mais certaines se répondent les unes aux autres, donc on va dire une grosse dizaine. La première pour gérer son backlog, c'est évidemment de mettre le frein sur les gaz. Tu l'as, Daz, ou pas?
Pas du tout. Sur les games as a service.
Et oui,
oui, ah,
et oui,
les freins sur les gaz.
You break on the gas. Voilà, merci, ouais. Ça c'était pour Daz. Évidemment, le truc problématique qu'on a, c'est que...
Excellent conseil.
on a toujours plus de jeux et en fait à la fin
Gaz qui sort,
fucking Hearthstone, je joue depuis 8 ans Hearthstone et c'est le jeu auquel aujourd'hui il a battu mon record, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie, devant Dota qui est aussi un game of service, devant Elite Dangerous.
Sur Hearthstone,
je le dirai pas.
Okay. C'est le genre, oh ce jeu il fait 20 heures, non c'est trop long, 500 heures sur Pokémon.
Voilà. non mais là j'ai passé la barre des 1000 heures, je parle même pas. Donc tous les games as a service, donc ces fameux jeux qui sont des jeux qui ont un contenu
infini.
En contenu, ouais. Littéralement, donc des extensions, des passes, des patch logs, des nouvelles méta, que ce soit des MMO, etc. Il faut absolument freiner dessus parce que le problème c'est qu'ils sont faits pour être relancés constamment et vous rentrez dans une forme d'addiction qui fait que vous passez un temps infini sur ce genre de jeu et un temps dont vous ne vous rendez pas compte.
Ouais.
Et on en parlait tout à l'heure, encore une fois, sur World of Warcraft, les compteurs sont en semaines, ils sont pas en heures. Donc évidemment, il faut freiner là-dessus et c'est très dur parce qu'une fois qu'on a pris ses habitudes et qu'on s'est investi financièrement et intellectuellement et ce que vous voulez dans un game as a service, c'est dur. Donc évidemment, premier conseil, on freine là-dessus. Deuxième conseil, et c'est une technique que j'ai appris de notre cher streamer Titavion, un homme hautement respectable.
Un homme éveillé. Ouais.
Un homme hautement respectable. C'est de faire un Titavion du coup. Titavion, donc fois, il dit je vais me faire tous les FF.
Thème. Voilà.
Et je dis voilà, j'ai un thème et du coup, une fois que je rentre dans le thème, eh ben, je n'en sors pas. Et donc, Titavion, des fois, en stream, alors après, il est streamer, mais on peut le faire à notre hauteur. Il se fait tout l'Assassin's Creed. Il se fait tous les FF.
Ah, non, mais là, c'est 700 heures de jeu à claquer. Ça répond pas à la question, peut-être.
Bah, en fait, si, parce que du coup, tu te donnes une thématique. Ta thématique, c'est de suivre une saga, et puis ta saga elle-même est un thème. Et tu te dis, bah, effectivement, j'ai jamais fait tous les FF. À un moment, je vais rentrer dans un truc pendant 3 mois. Tout comme tu peux te dire, je vais me refaire les 34 saisons de Star Trek.
Ah bah ouais, c'est ça, d'accord.
J'ai découvert Uncharted et The Last of Us grâce à ça. Je me suis dit, je vais faire tout Naughty Dog.
Ouais, exactement. Mais Uncharted,
j'ai fait tout Naughty Dog.
Uncharted par rapport à un Final Fantasy, c'est.
Non, mais ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Mais ça lui prend des mois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis, ne faites pas forcément comme Titavion, qui est un streamer qui fait 8 heures de stream par jour. Mais vous êtes. Je trouve que vous dire, je vais faire une saga ou un thème, c'est vachement bien. Et effectivement, se faire tout Naughty Dog, c'est intéressant. Et se faire tout Naughty Dog, ça prend un mois, en fait. Tu vois,
tout Naughty Dog, c'est aller vite. Hein.
Tu te fais un mois, tu te fais Uncharted, tu te fais The Last of Us, tu te fais Crash Bandicoot, youpi, c'est cool.
T'as une descente, hein, je pense.
Oh, c'est génial, Crash Bandicoot.
Tu fais Uncharted dans cet ordre-là, Uncharted, The Last of Us, Crash Bandicoot.
Ouais, non, mais Crash dans cet ordre-là.
Les Crash Bandicoot, c'est 7 heures de jeu chacun, tu vois.
Ah, oui,
c'est Jack et Dexter, juste après. Ça
mais
va très
tu vois, aussi. Genre, bon, un jour où j'ai aussi beaucoup de temps devant moi, j'aimerais bien me faire tous les personnages, tu vois, mais rester dans ce trip, lycéen japonais, dating sim, slash RPG, machin, etc. Et ce que fait Titavion, en fait, je trouve ça marrant parce que, du coup, encore une fois, tu rentres dans cette fameuse méta de dire qu'en fait, tu chaque heure que tu passes dans un des jeux, t'es vraiment dans cette grosse thématique des j'ai fait tous les FF, j'ai fait tout, tous les jeux. Troisième conseil, c'est un conseil en plusieurs parties, c'est un système de rythme. Et donc, ce premier système de rythme, c'est de terminer ce focus sur un gros morceau ou un gros jeu, et ensuite enchaîner avec des petites friandises.
C'est ce que je fais.
Et j'aime bien le faire. Donc, des fois, c'est de te dire je vais faire Cyberpunk. Donc là, en ce moment. J'ai poncé Cyberpunk, je vais faire 200 heures sur Cyberpunk et en même temps j'ai lancé Ninja Warrior non
Ninja Cyber,
un truc qui est sur le Game Pass.
Narita Boy
non. L'autre
Cyber Shadow qui est un petit jeu d'action aventure en 2D, 16 bits, etc. Super bien, et que tu vas poncer en une soirée. Et en fait j'aime bien enchaîner les deux et en plus c'est un petit côté de se dire j'ai fait plein de jeux, plein d'expériences, et c'est toujours dur effectivement le côté de faire un petit avion, c'est que tout le monde peut pas faire que des RPG ou que des AAA, et des fois aussi enchaîner des petits jeux si ça accroche pas assez, voilà. Donc cet enchaînement de rythme, j'ai trouvé vraiment intéressant. Dans le même genre d'enchaînement, au lieu d'enchaîner des petits jeux et des gros jeux, j'aime bien des fois enchaîner le platiné survolé. C'est un peu le buvet éliminé de la bouteille d'eau. Mais là, c'est le platiné survolé. Il y a des jeux, j'ai envie de les platiner. Ouais. Et je vais être de manière complètement obsessionnelle sur le jeu. Genre, là, Cyberpunk. Donc vraiment, c'est genre, essayer de trouver tous les mégots de cigarettes dans chaque rue. 0,01% des joueurs l'ont fait. Et je fais, oh putain, je vais tellement être dans ce club. Et tu vas marcher pendant des heures dans fucking Cyberpunk en disant, putain, j'aurais pu jouer à autre chose. Mais en tout cas, te laisser aller à ton côté obsessionnel quand tu veux. Et à l'inverse, j'aime bien aussi, et sans te culpabiliser, mais laisser un côté survol total dans des jeux. Il y a des jeux, je fais la quête principale en ligne droite, où je fais le jeu, j'oublie d'avoir toutes les armes, j'oublie de tout débloquer, machin, etc.
En mode narration.
J'y vais. Pitié. Et je me prends pas trop la tête parce que j'ai envie de jouer comme ça au jeu. C'est pas que le jeu est mauvais, c'est juste que j'ai envie de jouer comme ça au jeu. Genre Céleste, je ferai jamais la face C de Céleste.
Ah ouais, déculpabilisez-vous. Voilà.
J'ai fini Céleste avec la face A. J'ai vachement aimé Céleste. Je sais qu'il y a une face B et une face C qui vont me faire m'arracher les cheveux. je le ferai juste comme ça. Et j'ai un très bon souvenir de Céleste parce que je l'ai fait, je l'ai survolé d'une certaine manière. Et les puristes me diront, t'aurais dû faire les trois faces. Et à l'inverse, Hollow Knight, j'ai fait mes 108%, etc. Donc pareil, cet enchaînement, je trouve super agréable dans un backlog, c'est de dire, t'as des approches de jeu qui te permettent aussi des fois d'affronter des jeux que t'aurais pas fait. Et je connais beaucoup de gens qui tournent autour de Céleste. Mais à un moment, en fait, Céleste en mode assisté. Céleste, c'est un mode easy, qui est un mode assisté.
Ouais.
Tu finis le jeu en 2h40. Le level design est magnifique, la musique est magnifique, le sujet est magnifique, tout est génial, et t'as pas jeté ta manette au-dessus du sol parce que t'as fait 120 deaths pour taper un niveau, un tableau. Donc des fois, il faut, faut se laisser aller au côté, j'ai envie de survoler ou j'ai envie de platiner. Truc numéro 6 aussi, l'excitation du Day One. On se disait souvent que le Day One servait plus à rien parce qu'avec le back catalogue, en fait, aujourd'hui, moi, je peux me faire tous les Batman Arkham, j'en ai pas fini un seul, je peux les faire 6 ans plus tard, je pense que je vais vraiment me marrer, je vais relouper le Day One. Je m'en fous. Fibre fait Cyberpunk 3 mois après tout le monde.
C'est clair.
Exactement. Bon, même si tu te fais spoiler, parce que du coup. Mais des fois, j'aime bien aussi me mettre dans la hype et ça me motive pour lancer un jeu, de dire c'est le Day One, The Last of Us, ou je sais pas, là, il y a eu Loop Hero ces derniers temps, ou des jeux où tout le monde jouait. Et j'avais envie de me mettre dans la hype, de me mettre dans la conversation. Et je trouvais que c'était une très bonne motivation pour se lancer dans un jeu aussi, de dire vas-y, ce jeu-là, Day One, je lance avec tout le monde, j'y joue, je vois les discussions sur Twitter, machin, etc.
C'est pas un back catalogue, le Day One? Puisque tu rajoutes à ton catalogue.
Bah si, tu le rajoutes à ton catalogue.
Mais non, mais tu veux le faire Day One, donc tu l'achètes pour le faire. Oui, ce n'est pas du back catalogue.
Mais qui n'a jamais acheté de Day One et l'a fait un an plus tard? Il y a plein de gens qui ont acheté des jeux Day One et qui l'ont fait bien plus tard.
Voire jamais.
D'accord, mais à ce moment-là, il devient de ton back catalogue, mais tu veux pas l'acheter, non, le faire
un
Day
backlog,
One.
Un backlog, c'est juste. T'avais 30 jeux dans ton backlog, t'en rajoutes un 31ème, il rentre dans le backlog.
Exactement, sauf que là, ce jeu, il ne va pas dans ton backlog. C'est une manière de réduire ton backlog, Ken.
Non, vous l'augmentez, ça m'en fout, hein, parce que pour moi, c'est vous l'augmentez. Moi, la base, c'est t'achètes plus rien.
Mais non, bah, des fois, c'est cool d'acheter un jeu et de le faire dans l'hype.
Je suis d'accord, mais ça ne répond pas à la problématique.
Oui, non, mais il a raison. C'est vrai que du coup, tu augmentes artificiellement, enfin même pas artificiellement d'ailleurs, tu augmentes la charge alors que ton but c'était d'écluser.
Je suis pas d'accord parce que encore une fois, un jeu que t'achètes Day One peut devenir un jeu de ton backlog.
C'est un sportif, il nous parle de motivation, tu vois. Il faut qu'on soit dans le move.
Mais encore une fois, je dis, faites des jeux Day One, mais à petite dose. Parce qu'encore une fois, courir après le Day One aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Tu vas sur Twitch, chaque jour t'as un nouveau jeu à la mode, tu te dis j'arriverai jamais à suivre. Mais des fois, à petite dose, faut se mettre dans la hype aussi. Bon bref, Ken n'est pas d'accord.
J'espère qu'il y a le conseil qui dit justement de ne pas suivre la hype aussi quelque part, parce que c'est intéressant ça.
On verra.
Ok.
Alors. Conseil numéro 7, reconnaître le syndrome de l'opportunité ou le syndrome des soldes et de vous rendre compte que vous l'avez acheté parce que c'était pas cher.
C'est clair.
Le fameux, est-ce que j'ai envie d'acheter Farming Simulator avec ses 17 extensions et toute la campagne de la Bavière? Parce qu'en fait, il coûte 4,99€ et qu'il a 123% de réduction sur Steam marqué en rouge. Voilà. Donc, à un moment.
Oui. La réponse est oui.
Tout comme les soldes, t'as acheté un jean qui te va pas du tout, mais il est marqué moins 60%. Tu te dis putain, moins 60%, quand même, l'occasion est trop belle.
Tellement de paires
de
chaussures.
On a acheté évidemment beaucoup trop de choses parce que c'était l'opportunité avant l'envie de jouer. Et donc, des fois, on a racheté. Des fois, on a raracheté. Et des fois, avec les bundles, on a raracheté. Des jeux en mode je m'en fous, en fait ils m'ont
dit 6 fois
et tu à la fin tu refiles des clés à des gens parce que tu dis bah en fait effectivement quel jeu a été rincé comme ça à l'infini dans des bundles et on avait des clés. J'étais dans des bundles,
non, peut-être pas dans des bundles,
non, mais bon bref, il y a eu plein de jeux en fait tu le voulais pas vraiment, le prix était trop beau, tu l'as acheté, et j'en reviendrai sur le point de Suzy un moment, il faut appuyer sur le bouton supprimer. En tout cas, faut reconnaître qu'à un moment, ce jeu là tu l'as pas vraiment acheté. T'as pas acheté un jeu, t'as acheté une opportunité, donc ce jeu, c'est pas ton backlog.
Ouais, comme les jeux PS Plus que t'ajoutes.
Complètement. Mais moi, j'ajoute tous les jeux PS Plus de la Terre dans le backlog.
Pareil. D'ailleurs, il y a
des
nouveaux.
Les jeux, je les regarde et je fais, mais qui êtes-vous? Vraiment, il y a des jeux, je les connais pas. Je dis, mais on s'est jamais vu. Il me fait, mais si, non.
J'ai une notification PlayStation App, justement.
Voilà. Et donc, évidemment, on en vient au point suivi. Supprimer des jeux.
Supprimer des jeux. Enfin.
C'est-à-dire les désinstaller.
Un moment, exactement. Parce que des fois.
Les supprimer, genre, oublier leur existence. Parce que c'est
non, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vois des jeux, le problème des backlogs, c'est que tu scrolles. Et que ces jeux que tu ne vois même plus, ils rajoutent à la masse. Ils rajoutent à la panique que t'as devant ta liste à faire. Ils rajoutent devant les jaquettes et les icônes que t'as. Et à un moment, il faut les supprimer littéralement parce que t'as des jeux qui, en fait, deviennent néfastes pour toi, pour ton backlog, en fait. À un moment, on sait tous qu'il y a des jeux qu'on a survolé 35 fois, sans même s'arrêter dessus. Dans ta vision périphérique, tu reconnais cette jaquette, tu sais même plus exactement si c'était Spec Ops ou This War of Mine ou un vieux code que t'as récupéré sur un truc, quoi. Et des fois tu te demandes même ce qu'il fout là le jeu. Moi il y a vraiment des jeux dans Steam, je fais mais j'avais acheté ce jeu ou on me l'a filé un code ou j'étais dans un modèle. Il y a vraiment des jeux. Pff. Bon, stop un moment. C'est un voilà, tel des chevaux qui sont cassés la patoune, tu pourras jamais regalloper avec. Hein. Donc à un moment, il faut abréger leur souffrance, il faut leur tirer une balle dans la tête. Hein,
oui, mais alors donc ma question, tu le supprimes de ton disque dur, évidemment, ou tu le supprimes de ta liste. On peut faire ça ?
Il est plus dans
bonne
ta
question.
Vie.
Je sais
tu
pas.
Peux,
je...
Pour moi, tu peux pas supprimer. Donc.
Tu peux.
Je suis pas sûr.
Alors, t'as des options dans Steam pour les cacher et qu'ils ne soient plus visibles. Et t'as des options pour les supprimer et de ton compte. Moi, aujourd'hui, il y a des jeux qui ne sont plus visibles dans ma liste Steam. Il y a des jeux, j'ai fait une croix dessus parce que j'ai dit, OK, je l'avais acheté, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté ou je l'ai récupéré, je sais même pas pourquoi j'ai récupéré. Et en fait, ma liste Steam de backlog aujourd'hui, elle est saine. Vous voyez, elle a baissé de 40%.
Il y a tellement de névrose dans cette chronique, c'est incroyable.
Écoutez, moi en tout cas, tu vois, quand Suzy a dit je supprime des jeux, il y a des gens qui te font waouh, c'est radical.
Non, mais
et en fait,
non, mais Suzy les désinstaller.
C'est le Marie Kondoïsme, tu vois.
C'est un peu ça, c'est juste que je trouve qu'on. Il faut parler plus ouvertement qu'il n'y a pas de honte à baisser les bras.
Oui.
En fait, juste j'ai acheté ça, j'y jouerai jamais en fait. Même les fringues, n'importe quoi, j'ai acheté un truc.
Exactement.
C'était con.
Oui.
Il n'y a pas de honte à dire. À baisser les bras, juste à abandonner.
Accepter.
Tout comme il n'y a pas de honte à ne pas finir un jeu, à l'acheter, commencer à y jouer, j'y joue deux heures, ça me casse les couilles.
Complètement. Hein.
Voilà,
mais tu vois, le fait de le garder, même si ça ne prend pas de place physiquement, tout comme aujourd'hui, on dit à un moment, je vais donner mes fringues à mes ou je vais les vendre sur le bon coin parce qu'en fait, tu ne vas pas accumuler toutes les fringues que tu as achetées, que tu ne mets plus, ce n'est pas possible. Et bien en fait, même si virtuellement un jeu, enfin physiquement un jeu ne prend plus de place parce que c'est virtuel, mentalement, ça prend énormément de place. Et franchement, essayez de le faire. Ne serait-ce que masquer les jeux, parce qu'après vous aurez une playlist de jeux masqués que si vous allez chercher dans Steam, masquer les jeux dans Steam que vous êtes quasiment sûr de pas faire, vous allez voir votre backlog Steam, tu dis mais c'est absolument génial, c'est Marie Kondo, c'est vraiment Marie Kondo. Est-ce que ce jeu Spark Joy ? Non, il ne spark pas Joy. Comment on traduit Spark Joy ?
Me donne du plaisir.
Voilà, est-ce qu'il j'ai une étincelle.
Me donne une étincelle de plaisir.
Eh bien, supprimez vos jeux. Et dans le PlayStation Plus. Il y a des jeux, c'est vraiment débile. En fait, j'ai même l'impression que des fois, ça dévalue le PlayStation Plus parce que je me balade en me disant, mais en fait, il y a que les jeux OSEF, tu vois. Ah, en fait, ces jeux, ils t'ont rien demandé. Sauf de payer un abonnement. Comment dire ? Freinez-vous sur les achats aussi et donnez-vous des systèmes de récompenses.
Après le Day One, mon gars, ça me semble.
Non, j'ai dit le Day One, rarement. Moi, un Day One, je l'offrais une fois par an, tu vois, par exemple.
D'accord.
Voilà. Freinez-vous, c'est-à-dire, faites-vous, si j'ai dosé deux jeux, alors pas forcément fini, Suzy, t'as raison. Si j'ai dosé deux jeux, bien dosé deux jeux, je peux peut-être m'en ajouter un dans mon backlog. Arrêtez de cumuler. Essayez déjà de finir plus que vous cumulez. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est un autre rythme de jeu. Et puis, ça vous redonne ce fameux bâton et cette fameuse carotte de dire, bah, effectivement, j'aurais droit à mon cheat meal une fois que j'aurais fait mes 30 pompes, bah là, j'aurais droit d'acheter un nouveau jeu quand j'en aurais terminé peut-être deux ou trois.
Technique de Quicks, ça.
Peut-être. Numéro 10, je reviens à la PlayStation. Laissez-vous guider par la PlayStation. Je trouve que la feature de suggestions de quêtes et de moments de jeu sur la PlayStation 5, que pour être honnête, j'ai pas vraiment expérimenté, mais que j'ai vu en présentation, j'ai trouvé hyper intelligent puisque tu te balades dans ton catalogue de jeux PlayStation qui sont dans ta PlayStation 5 et tu rentres dans un jeu et la PlayStation va te dire ici t'as une quête qui dure 17 minutes, ici t'as une quête qui dure 10 minutes, là t'as un boss, les activités PlayStation. Et en fait c'est intéressant parce que tu commences à comprendre que l'entrée dans ton backlog et dans ton jeu, donc peut se faire par des activités thématiques en disant voilà, là t'as un level à explorer, là t'as un boss si tu veux te le faire, voilà le temps que ça peut te prendre. Et c'est hyper intéressant, je trouve, que le jeu ou le constructeur de jeu te refasse rentrer dans un jeu ou t'accueille dans un jeu avec d'autres motifs que de dire lance le jeu puis retrouve-toi là où t'es, puis voilà quoi. Et je trouve que ces activités PlayStation, en tout cas, je les trouve hyper intelligentes pour notamment les gens qui disent j'ai abandonné le jeu parce qu'évidemment la classique, j'abandonne un peu trop longtemps, j'ai perdu l'élan, j'ai perdu les dynamiques, je sais plus où j'en suis, je sais plus quels objets j'ai, blablabla.
Moi et tous les RPG japonais.
Mais on est tous passés par là, je pense, à un moment. Mais en tout cas, ce système d'activité qui te dit viens regrignoter juste un petit peu, je trouve super intelligent et il est intégré au niveau littéralement de la console. C'est-à-dire que tous les jeux PlayStation peuvent avoir au niveau de la console des activités et des sortes de mini playlists d'une certaine manière.
Je dois bien t'avouer que si le jeu t'indique en gros les gens qui ont fait ce chapitre du jeu vidéo ont mis en moyenne tant de temps et que j'ai cet indicateur là de temps moyen pour,
oh, pour
terminer, pour terminer
temps,
ce chapitre là psychologiquement moi ça va m'aider, j'aime pas rentrer dans un chapitre. Mais déjà si je rentre dans un chapitre de jeu j'aime le terminer, tu vois, et si je sais pas quand le truc va être terminé, il y en a plein, hein, des trucs comme ça, tu vois, dans Red Dead Redemption 2 les chapitres il y en a pas un seul qui dure le même temps. T'en as qui sont ultra courts et il y en a, je te jure,
à l'épilogue.
6 heures pour le terminer, c'est interminable.
Mais des fois, tu comprends. Mais encore une fois, ça ne t'empêche pas de jouer au jeu normalement. C'est juste qu'encore une fois, c'est une technique pour t'aider à revenir au jeu.
Ouais.
Et évidemment,
je m'indique, je me dis, ok, là, je me lance dedans, là, je me lance pas dedans. Tu vois, c'est.
Les activités sont des entrées en plus pour les gens qui sont sur le point d'abandonner, en fait.
C'est bizarre, quoi. Parce que pour moi, c'est comme si vous regardez. Parce que moi, je prends le loisir comme n'importe quel autre loisir, comme un film ou autre chose. Et quand je regarde un film,
tu sais,
je me dis pas, je veux pas qu'il y ait une barre de progression sur le côté qui me dise l'intro va durer encore 3 minutes, ensuite,
non,
t'as le premier acte, deuxième acte, troisième acte.
Ton ensemble du film, tu sais combien de temps il dure.
Oui mais en fait, tu dis le film dure 3h30, oui, cool, je sais que le jeu dure 80 heures, mais après.
Non, justement, parce que
c'est pas les mêmes durées. Parce que c'est pas du tout
les mêmes, c'est pas du tout les mêmes durées. Voilà, exactement. Il faut prendre plus un jeu vidéo comme une série, voilà, avec plusieurs.
Je me suis jamais posé la question d'avoir
plusieurs épisodes dedans qui sont les niveaux.
Ouais.
Mais
en fait, je me suis jamais dit que chaque niveau doit avoir soit le même temps, soit m'expliquer combien de temps ça va prendre.
Moi, j'aimerais bien.
Et en tout cas, les activités de PlayStation ne sont pas que des niveaux de jeu. Les activités de PlayStation peuvent dire, tiens, il y a une petite side quest. Tiens, il y a un endroit que tu n'as pas vu. Et en plus, il te téléporte pas loin de ça, en fait. Donc, en fait, voilà, il te fait rentrer dans différentes activités. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est des activités de PlayStation. C'est hyper intelligent.
Comment il gère par rapport à la progression dans le jeu en question?
Et bah, il connaît ta progression et
il ne propose que par rapport à ta progression.
Bien sûr, d'accord, évidemment. Okay. Donc, en plus, c'est intelligent. Tu vois, il connaît par rapport à ta progression. Hein. Et te spoiler rien,
oui, parce que c'est vrai que l'étape d'après c'est dit bah vas-y fais le final boss directement.
Mais tout comme aujourd'hui tu sais, t'as des sites internet, t'as des articles, ils te disent le temps de lecture, voire t'as des barres de progression au fur et à mesure. Et encore une fois c'est un truc qui n'est pas obligatoire, mais je trouve ça très intéressant pour attaquer des backlogs des fois, de dire tiens le jeu me redonne des entrées, me resitue par rapport au jeu, et encore une fois c'est un choix en plus.
D'accord.
Ça ne se substitue pas. Donc voilà, les activités PlayStation très intéressant. On attaque la fin des conseils. Des fois se permettre donc le cheat meal, hein, pour rester dans la métaphore du sport, c'est des fois tu te refais un jeu que t'as déjà fait dans ton backlog, t'as le droit.
Ah bah super,
voilà, à un moment tu dis bon ok, je dois me faire que des jeux que j'ai pas fait,
j'ai 45 jeux mais je vais refaire le même en boucle.
J'ai dit tout comme le day one, c'est parfois
avec parcimonie.
Voilà, et évidemment si ta passion dans la vie c'est de refaire un run de Skyrim 35 fois, c'est plus un cheat meal, c'est de l'obésité morbide. Voilà.
Des jeux qui me font du bien, je veux bien, voilà, je les refais.
Il y a de la comfort food, et des fois on peut se donner une petite comfort food. Alors 12 aussi qui va faire discuter. Pour moi le let's play c'est une manière pas très très puriste, mais c'est une manière en cas extrême de purger son backlog
complètement.
Donc il y a des jeux que je trouve intéressants
sur YouTube,
ouais,
que je trouve chiant à jouer,
ouais,
ou sur Twitch, et en fait je les regarde et je considère que
j'ai joué,
vécu une partie de l'expérience, même si j'ai pas vraiment vécu l'expérience. Mais pour moi c'est une manière des fois d'excuser mon backlog, c'est de me dire Skyrim, j'y arriverai jamais à jouer. Je trouve que le jeu le feeling du jeu est dégueulasse. Skyrim c'est un jeu que j'ai commencé à regarder en let's play pour voir le scénario, les dialogues et tout.
C'est Alien Isolation par exemple, je fais pareil, je sais que j'y jouerai jamais moi de ce truc là.
Et t'as des jeux des fois tu te dis j'ai tellement envie de savoir ce qui se passe un petit peu. Alors souvent c'est des jeux narratifs, puisque des jeux à réflexe, je pense que bref. Mais en tout cas, je considère que même si c'est une solution un peu
Fortnite quoi,
non.
Oui.
Okay. Même si c'est une version un peu, on va dire sale du backlog, des fois je trouve que c'est une technique qui fonctionne mieux que de dire j'ai laissé traîner un jeu dont je ne saurais jamais rien, parce qu'en fait ce sera une ligne dans mon backlog.
Mais c'est comme faire un jeu avec tes potes, enfin passes la manette.
Ouais,
il y en a qui regardent, ils veulent même pas jouer.
Ah ben moi D3, j'ai laissé des gens jouer. Ça me faisait chier de jouer à D3, par contre intéressant de le regarder, tu vois.
J'ai littéralement appris l'histoire de Metal Gear Solid 3 sur le speedrun, et j'ai fait Metal Gear Solid 4 en YouTube.
Ouais.
Vraiment.
Donc encore une fois, quand les gens me disent est-ce que t'as fait courage. Metal Gear Solid 3, je dis pas je l'ai fait, mais en tout cas il est plus dans mon backlog.
Ouais.
Et ça encore une fois c'est important.
J'y jouerai pas, c'est sûr.
Donc c'est important. Et pour revenir à ce qu'on a dit dans la petite FAQ tout à l'heure sur comment aider les gens à se mettre aux jeux vidéo, à l'inverse, j'écoute vachement ma compagne qui est une néophyte du jeu et qui a une approche du jeu qui est très différente de la mienne, puisque elle a une sélection du jeu qui est parfois spontanée, parfois qui sort de mon truc et qui vraiment dit là on a l'autre fois on est tombé sur Genesis Noir qui est sorti sur le Game Pass, j'avais pas spécialement envie de le faire. Et donc on passait sur les vignettes de jeu, le bout d'aperçu arrive, t'as du jazz qui sonne et donc ma compagne fait c'est quoi cette musique, et elle regarde fait mais attends, mais c'est trop beau. Et elle me dit, c'est quoi? Je fais, je sais pas. Moi, je m'en fous, je veux le lancer, en fait. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, j'ai plein de jeux. Et encore une fois, moi, je suis pris de la paralysie du choix. Donc, Netflix, les trucs, on finira là-dessus.
Ouais.
Moi, je suis un mec qui va zapper à l'infini sans jamais jouer à rien. Et avoir quelqu'un qui n'est pas en train de dire, ouais, j'ai trop joué à ce genre de jeu, ouais, j'ai machin, mais qui est très spontané, ça m'a énormément aidé à faire beaucoup de jeux. Donc, Wilmot Warehouse, on l'a fait parce que ma compagne, c'était sous son impulsion. Divinity Original Sin, elle voulait faire du jeu de rôle, c'était sous son impulsion. Etc. Mais il y avait une spontanéité, une envie, une curiosité qu'elle avait que je pense, je me suis rendu compte, j'ai un peu perdu. Parce qu'encore une fois, peut-être un peu blasé, trop de jeux, trop d'années, etc.
Bah oui,
bon. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, très bonne technique pour attaquer son backlog, c'est un moment de te laisser guider par une autre personne qui est peut-être un peu plus fraîche que toi là-dessus. Et enfin, dernier point, mais qui n'est pas vraiment une question, mais qui va ouvrir sur un débat de 3 heures.
Oh,
est-ce que l'abonnement a tué le syndrome du backlog, c'est-à-dire que vu que tu n'achètes plus de jeux à l'unité, tu ne culpabilises plus d'avoir des jeux que tu n'utilises pas, ou est-ce que l'abonnement a créé un nouveau syndrome du backlog qui est des jeux qui s'empilent et comme Netflix à la fin, comme les jeux s'empilent et qui n'ont aucune valeur, enfin moins de valeur pour moi parce qu'en fait ils arrivent constamment, je me retrouve littéralement des fois à faire des soirées zapping où je suis sur Netflix ou sur le Game Pass et je choisis en disant et en fait je rien n'accroche à moi parce qu'en fait j'ai trop de choix et que j'ai pas d'investissement et donc
je te réponds tout de suite pour moi il l'a tué. C'est-à-dire que justement avoir une quantité de jeux absolument infinie, c'est pas des jeux que j'ai achetés, c'est pas mon backlog en fait. Ça me permet juste d'aller jouer à un jeu. Et souvent quand je lance un jeu dans le Game Pass, il me plaît pas et à ce moment-là j'en ai un fou, je l'ai pas payé, donc je le considère pas comme étant un backlog.
T'as payé l'accès.
Non, je le loue. D'accord. Et
mais c'est pas ton jeu, bien sûr. Bah oui.
C'est pas mon jeu. Soit ça me plaît et je vais au bout. Donc sincèrement, pour moi, tous les jeux dans le Game Pass, je le considère pas comme étant mon backlog.
C'était mon réflexe premier, mais c'est mon réflexe.
Saleté de jeu, c'est sur mes étagères là. Tout ce qui se remplit là sur mon étagère, que j'ai pas encore joué, parce que c'est des grands jeux qu'il faut absolument avoir ou absolument avoir fait. Ça, c'est mon backlog. Franchement, j'aurais préféré que tout ça se retrouve dans le Game Pass et puis que j'en entende plus parler. Pareil hein, pour les jeux PSN que j'accumule à l'infini là depuis des mois. Hein. Très intéressant le PSN en ce moment d'ailleurs. Prenez-le, même si vous n'avez pas de PlayStation. C'est pas mon backlog.
Ah oui, en tout cas, c'est pour ça que je mettais l'abonnement à côté parce que je pense que l'abonnement résout un problème, mais peut en créer d'autres. Parce qu'encore une fois, Netflix, ils ont un vrai problème, c'est que les gens ne savent plus quoi regarder sur Netflix et ils ne font plus de choix. Ouais, Netflix en France a lancé une télé Netflix, littéralement. Donc
Prends le contenu à la volée.
Ouais. C'est du truc linéaire, vraiment. Tu prends le truc à la volée et les gens, en fait, en France notamment, ça marche trop bien. Et ils ont lancé la fonction random parce qu'ils se rendent compte que des gens comme moi, de plus en plus, se retrouvent à zapper en disant un documentaire, je le mettrai de côté, je sais pas, attends, il y a quoi d'autre. Et en fait, ne regardent rien à un moment. Ils font des soirées à sélectionner des trucs Netflix, mais en fait à ne rien regarder.
J'ai pas encore ce problème.
C'est pour ça que je vais mettre de côté l'abonnement dans le backlog.
On est à 657 névroses dans cette chronique. On va toutes les attaquer une par une.
Vas-y.
Non, mais moi c'est le démon de tout le monde, ce backlog. Et à un moment,
non. Moi je suis subjugué. Moi je suis subjugué. Mais je pense que cette histoire du backlog, ça rejoint aussi les gens qui veulent absolument clearer tous les macarons des notifications sur leurs applications de leur smartphone.
Ah oui.
Il y en a qui ne peuvent pas vivre s'ils ont un email non lu parce qu'il n'y en a pas si rouge.
J'ai zéro unread mail dans mes
voilà. Moi perso là-dessus, j'ai let go, mais il y a ultra longtemps et je m'en bats les couilles. Donc mon backlog de Steam, je dois avoir 250 jeux. Je trie uniquement ceux qui sont installés et ceux qui ne le sont pas. Comme ça, j'ai les jeux qui sont installés auxquels je joue. Mais j'ai zéro culpabilité de quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Je me dis, ça doit être horrible d'être dans la situation de l'âme.
Ça te correspond bien.
Ben oui, mais parce qu'en fait, c'est de l'amusement. Moi, j'ai pas envie de gérer mon backlog comme si je devais respecter les dates de limite de consommation de mes petits pois. Enfin, je m'en tape, quoi.
Quand t'es comme moi, que t'es un collectionneur, que t'as les jeux physiquement, c'est-à-dire que tu te balades dans ton chez-toi. Et le jeu, il est là.
Ouais.
Tu
sais c'est pas grave. J'ai des paires de chaussures que j'ai jamais mis.
Non, voilà, mais Daz, c'est notre névrose. C'est que Daz, en fait,
j'en ai rien à foutre. J'ai des paires de chaussures. Elles sont chez moi. Elles sont neuves dans la boîte.
Mais tu peux pas comparer une paire de chaussures.
Mais non,
c'est pas comparer une paire de chaussures. En plus que t'as
la même chose.
Un milliard de Yeezy différents.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Tu vas foutre ton pied dedans. C'est la même chose.
C'est la même chose au sens où Daz est un consommateur irresponsable. C'est le seul point commun.
La collectionnite, ça touche tous les trucs. Et en fait, effectivement, je me retrouve.
Mais les jeux
dans ce que dit Lame, par exemple, moi, effectivement, tu l'as dit toi-même, j'ai des Ultra Boost, elles ont toutes un truc différent, mais un néophyte, il dit, c'est les mêmes chaussures. Moi, je vais dire, non, c'est pas la même série. Les gens vont pas calculer, en fait, et je m'en fous, et je me dis, j'ai racheté encore une paire d'Ultra Boost alors que j'ai toujours pas porté ces Nike Sakai, mais je m'en fous, en fait, c'est pas grave, je ne me culpabilise pas. Et pour les jeux, je fais les soldes de Steam, machin, etc. je prends le jeu, j'y joue, c'est cool. J'y joue pas, tant pis, le jeu il sera dans mon backlog. Cool. En fait, j'ai zéro culpabilité là-dessus et je pense que vous devriez peut-être lâcher un peu du lest.
Non, mais je comprends, mais...
J'ai hâte d'avoir l'avis de Fibre et Tuzi là-dessus.
Fibre.
Je vais vous décevoir, j'ai 20 jeux dans mon backlog Steam.
Et 20 jeux, c'est tout ?
Ouais, en fait...
Il n'achète rien, c'est un pingre.
Ouais, exactement, j'allais le dire. Moi, ma maladie...
Il y a le consommateur irresponsable et il y a le consommateur...
Ma maladie mentale, c'est que je suis vraiment radin, mais de façon malsaine.
Ouais, c'est un rat, ça.
Vraiment, je suis cette personne au Lidl qui regarde les boîtes de sardines à 1,10€ et 1,12€, tu vois, et qui essaie de voir si c'est vraiment ça vaut le coup d'investir 2 centimes de plus. Mais vraiment, hein, et je peux rester comme ça longtemps et je vois ma femme qui souffre de me voir comme ça. C'est comme ça. Donc, effectivement... Quand j'achète un jeu, je peux dire que chaque centime, c'est une souffrance. Genre, le Farm Simulator à 4€, je vais le finir. Okay,
dis le mec qui paye sa taxe Ubisoft tous les ans en achetant les jeux.
Ouais,
non,
mais il l'a fait.
Et oui, je l'ai fait en entier. Je l'ai platine jusqu'au bout. Odyssey, j'ai fait tous les putains de trucs. Et effectivement, quand je joue à un jeu, 80€, c'est le prix d'un Ubisoft plein pot. Je vais manger chaque euro. Je vais en avoir pour mon argent. Voilà. Et ça, c'est sûr. Et quand un jeu comme Steve Simulator que j'ai envie d'aimer, je sens que je peux pas le finir, je demande un refund tout de suite. C'est vraiment et donc du coup, c'est très j'ai envie du jeu, je l'achète, je le finis et j'achète un autre jeu. Putain, c'est vraiment
les deux mêmes catalogues opposés. Mais attends, je t'aime voir où Suzy elle se place là-dessus là.
Je suis un peu au milieu de tout le monde en fait. Un peu au milieu des trois. Non, j'ai appris la patience comme je travaille dedans.
Ouais,
donc déjà
aussi.
J'achète jamais un triple A, j'achète toujours les triple A un an après quand tout est débloqué, comme ça j'ai pas acheté les DLC et les machins, et je les paye beaucoup moins cher pour pas payer les fameux 80€ déjà aussi, n'étant
cher,
pas pingre, moi mes sardines ça va, mais j'achète mes sardines comme ça à la volée, ça m'est égal, mais je me donne tout. Mais après moi je patiente beaucoup et surtout j'achète pas mal mes jeux en physique encore parce que
mais
diverses
là,
raisons mais effectivement
là, t'as au maximum de la culpabilité quand tu les vois comme Ken en physique devant toi si tu les as pas joués.
Quelle culpabilité,
je les donne en fait. Moi ce que je fais c'est que des fois j'en ai trop et je me dis tiens, ça me fera un très beau cadeau pour mon neveu.
mais t'as 100% raison,
c'est un peu au bout d'un moment je les file quoi quand je me rends compte que j'y jouerai pas,
comme
ça je fais du vide. Exactement,
c'est ouf,
c'est parce que j'achète des jeux.
Mais j'achète
parce
des trucs,
que je veux les faire, Daz. Je les achète pas parce que je veux augmenter ma collection. Je les achète parce que je veux les faire.
Ouais.
Et savoir que je les achetais parce que je voulais les faire et que je ne les ai pas fait parce que j'ai eu pas le temps
tu
de les,
as
les
pas
faire.
Encore
ça
fait.
Me rend fou. Oui,
est-ce que tu est-ce que
ce que je dis, j'essaie de.
Est-ce qu'intuitivement, comme ça, t'as assez d'espérance de vie pour tous les faire une fois?
Oui.
Oui.
Oui, ceux de mon backlog.
Quand tu commences à faire ce calcul, là, c'est vraiment tes névroses.
Non, mais quand tu vois que grâce
ou alors t'es en maladie en terminale, quoi.
Ouais, grâce au confinement, j'ai clean littéralement 80% des jeux PlayStation 4 de mon backlog. Vraiment 80% que j'avais pas fait.
Mais 80% d'une génération. Hein.
Je les ai clean. Pas, j'ai pas fait tous les jeux de la génération, ceux que j'ai achetés. D'accord. Je vois qu'il m'en reste 20%. Parmi eux, il y a Horizon que aucune envie de terminer, tu vois. Et
mais moi, sur les 80€, j'ai justement acheté Assassin's Creed Valhalla. J'ai fait 220 heures et je suis encore, je sais pas, à 60%.
Mais toi, ce qui est affreux, c'est qu'en plus, t'es tellement pingre que t'as des jeux que tu détestes.
Ouais.
Genre Watch Dogs.
Ouais.
Le mec, il va jouer pendant 100 ans en disant quel jeu de merde, quel jeu de merde.
Ouais.
Mais juste pour pas perdre d'argent, tu vas le perdre, mais moi
je vais dans un resto, je paye et c'est dégueulasse, je mange jusqu'au bout, j'ai payé, je suis baisé, c'est comme ça, autant
donc,
que
voilà,
ça nourrit.
Là tu vois, c'est encore un autre niveau de névrose, c'est que c'est vraiment c'est le rapport à la vie en fait, c'est intéressant.
J'en souffre, mais c'est comme ça.
Je vais finir le jeu, tu vois, mais je vais pas lâcher l'assiette, si c'était mauvais, je lâche pas l'assiette, tu vois, donc je vais pas faire les 100% des trucs, je vais aller, ce jeu là il m'a saoulé. Red Dead, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, c'est pour moi c'était une allez, une
ça c'est dans mon backlog.
C'est un peu fort.
J'ai fait 2 heures, il est posé.
Ça a été
la même.
Ça a été d'une chiantitude absolue.
Le deux.
Une épreuve.
On parle tous du deux.
Vraiment, je me suis emmerdé du début à la fin.
Mais donc t'as un sentiment de culpabilité toi quand tu.
Mais je l'ai fini.
Tu l'as fini.
Ah, tu l'as fini.
Alors tu l'aimes pas.
Oui.
Fibre, s'il te plaît.
Ce que tu fais.
Non, mais alors moi, je l'ai joué dans l'espoir qu'il devienne bien.
Je me suis dit,
il y aura peut-être un dessert, tu vois.
J'allais dans ton sens, en fait. Oui, moi aussi, j'ai la carotte parce qu'à chaque fois, j'en discutais. Mais non, t'en fais pas. Ça commence
bien à la 15e heure.
L'histoire s'emballe à partir de ça.
Bah oui.
Et l'histoire s'emballe.
Non, Tahiti, non. Ils diront jamais.
Voilà.
C'est une fringe. Ça devient bien au dernier épisode de la 3e saison. Super. Non, mais en fait, moi, vraiment, cette culpabilité que vous avez sur vos jeux non fait, Moi, j'ai des jeux que j'ai achetés que j'ai jamais installés. C'est pas grave. J'ai des jeux que j'ai installés qui me prennent 60 gigas, je les garde. Par exemple, j'ai toujours The Witcher 3 installé, je m'en fous.
Mais moi, si j'avais 1200 heures de Elite, je me sentirais coupable.
De
bah, d'avoir mis 1200 heures dans un truc.
Mais ça, on en avait, parlé quand on parlait simulateur.
Et pourtant, je suis à 800 heures sur Slay the Spire.
Je considère pas que c'est du temps perdu, en fait. Alors, effectivement, t'as des jeux qui sont un challenge sans cesse renouvelé quand tu relances Hearthstone. Fortnite, n'importe quel jeu compétitif avec des games qui durent 35 minutes, une heure. Et puis
moi,
après,
la fin, Hearthstone, je culpabilise de jouer Hearthstone. J'adore jouer Hearthstone, hein. Je culpabilise d'y jouer.
Mais moi, j'ai zéro.
Il y a tellement de merveilles à côté là.
Moi,
putain,
j'ai
mais
zéro culpabilité à avoir 150 heures sur The Division 2. J'en ai rien à foutre.
Il y a des gens
qui
ont joué à Spider Solitaire plus longtemps que t'as joué à Hearthstone. Hein.
Ouais.
En fait, c'est leur kiff. Hein.
En fait, à partir du moment où le but c'est quand même te faire plaisir, qu'est-ce que t'en as à foutre de regarder
attends,
t'as pas mangé.
Si des gens disent, justement, mon père. Donc mon père a passé des milliers d'heures sur les jeux Windows. Donc le débineur, c'est le mec, il est top 1 monde. Il est diamant 4 sûrement sur la réussite. Et je peux dire Fricel, il a été approché par Cloud9. Donc vraiment, mon père, il a passé des nuits blanches à jouer à ces jeux-là. Et effectivement, il joue à ces jeux-là. Il joue pas à d'autres types de jeux vidéo. Ça ne l'intéresse pas de jouer à The Witcher. Voilà. Mm-hmm. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de se défouler sur le démineur et les jeux de cartes. Et très bien. Nous là on parle de ce podcast parce que j'imagine qu'on est tous passionnés par le jeu vidéo et on parle à des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo et donc il y a une envie aussi de jouer à des jeux vidéo. Donc moi ça me rend triste à un moment de me dire que je joue à très peu de jeux vidéo parce que un jeu vidéo m'accapare tout mon temps et parce que ce jeu vidéo est designé surtout pour m'accaparer tout mon temps.
Ouais,
les games
as a
service sont designés pour t'accaparer tout ton temps, donc les MMO, les Destiny, les shooters, les CCG, les TCG, etc. Les gachas sont des jeux qui sont destinés. T'as littéralement aujourd'hui des idle games, donc des jeux qui tournent en tâche de fond. Et donc c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis pas en train de me dire je dois avoir fait tous les grands jeux de l'existence parce que ça je m'en fous et voilà. Ouais. Tout comme toi, Suzy, franchement, certains Rockstar, j'ai jamais fini un GTA. Voilà, y a des GTA, j'ai squatté, j'ai pas fini et je m'en fous. Donc c'est pas cette culpabilité là. C'est de me dire qu'il y a des jeux qui me donnent vraiment, vraiment envie. J'ai vraiment envie d'y jouer et je me dis, à chaque fois, je me dis, oh, j'ai pas le temps plus tard. Et en fait, ce temps je l'ai. J'ai squatté le ladder d'Hearthstone pendant une heure.
Moi, j'ai le regret du backlog virtuel, effectivement, de dire par exemple, j'ai jamais joué à Vagrant Stories. Voilà, il paraît que c'est génial.
Ah, mais là tu l'as même pas acheté, c'est-à-dire que
non, je l'ai même pas acheté.
Ouais.
C'est
des jeux, c'est des occasions manquées.
En fait, le problème, pas avoir découvert certaines séries.
Le problème aussi, c'est que
et t'en as envie, en fait. Tu vois, je parle pas de jeux que tu connais pas, je parle de jeux dont t'as envie.
Enfin, Chrono Trigger, je sais que j'ai joué, j'ai adoré, mais je sais que si je devais y jouer aujourd'hui, j'aurais quand même. C'est un vieux jeu, tu vois, c'est compliqué.
Non.
Et je regrette parfois.
Je jure, non. Chrono Trigger, mauvais exemple, vraiment.
Oui, il est beau.
Chrono Cross, si, parce qu'il a vieilli.
Chrono Cross, de ouf. Ouais. Chrono Trigger, ça se fait comme ça.
Mais non, mais celui-là, j'ai joué, bien joué, je l'ai beaucoup aimé. Mais je regrette de ne pas avoir joué à des grands jeux à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus possible. C'est-à-dire que.
Il y a certains jeux qui sont indies.
Ils sont trop vieux, et pourtant, ils étaient géniaux. Je sais que GTA 4, par exemple, il est génial, mais aujourd'hui, il est presque pénible à jouer.
Il n'a pas très bien vieilli.
Ouais.
Ouais.
Oui, mais c'est des jeux Rockstar. C'est-à-dire qu'il y a une
non, mais t'as plein de jeux PS2 et PS3 aujourd'hui. Là, en 2021, faire des jeux PS2 et PS3, c'est trop tard. Tu vois, c'est raide du cul, c'est vraiment laid.
Oui, mais tu vois, par exemple.
Donc, dire que tu feras un jeu peut-être dans 10-15 ans, c'est faux en vrai.
GTA 5, c'est un jeu PS3.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Non, mais en fait, tu vois, la semaine dernière, effectivement, moi, là, en ce moment, effectivement, je joue à Valheim, je joue à Elite, je joue à Hearthstone. Donc, tu vois, je me dis, j'ai quand même 3-4 jeux qui sont à portée et que j'alterne. Ça m'a pas empêché la semaine dernière de déterrer la Vita quand j'étais en train de ranger mes affaires, de la recharger, d'aller télécharger Dragon Quest Builders et de passer peut-être 12 heures sur Dragon Quest Builders que j'ai acheté sur Switch pour ma fille derrière.
Jeu, hein.
Parce qu'en fait, c'était un genre de Valheim un peu light.
Ouais, c'est ça.
Qui te permet d'y jouer tranquille, tu vois. Enfin,
qui est un super jeu.
Et en fait, je me dis, j'ai zéro culpabilité. C'est-à-dire que la console, elle était là depuis 150 ans. Le jeu, j'aurais pu l'avoir depuis 150 ans aussi.
Non, mais est-ce que le jeu.
Je découvre là.
Non, mais est-ce que le jeu. Non, c'est pas pareil. Est-ce que le jeu, tu l'avais acheté?
Non, il l'a piraté.
Non, voilà. Vita, je l'ai piraté. Parce que maintenant, de toute façon, pour acheter un jeu sur Vita, ça devient compliqué.
Ah, c'est la faute à Sony. Hein.
C'est la faute à Sony.
On peut
mais effectivement, je l'ai pris sur PKJJ, tu vois. Par contre, quand j'ai vu que le jeu avait une mécanique qui était super intéressante, notamment pour les enfants, etc., parce que c'est un genre de Minecraft light, et ça permet aux gamins de s'éclater. Ma fille, elle a 9 ans. J'ai vu. Je lui ai acheté sur Switch.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, et je me dis, en fait, peut-être que si j'avais pas rangé un tiroir à ce moment-là, la Vita je l'aurais pas reprise et le jeu je serais jamais tombé dessus. Mais à aucun moment je me dis c'est dommage. Je me dis, il est là, c'est cool, il est pas là, tant pis. En fait, j'ai zéro culpabilité avec ça, parce que sinon la vie elle est trop compliquée, vous êtes fous.
Non, mais je suis assez d'accord avec Daz. Il faut se déculpabiliser. Hein. Maintenant, c'est des jeux, il y a des jeux que j'ai juste envie de faire, tu vois.
Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse s'intéresser aux jeux vidéo, faire des podcasts sur le jeu vidéo, avoir bossé chez jeuxvideo.com et dire. J'ai de la culpabilité quand je vois mon nombre d'heures sur tel jeu, en fait. Je me dis, mais c'est inconcevable.
Ah non, c'est pas trop ça. C'est vraiment de la culpabilité. Moi, vraiment, avoir acheté un jeu que j'ai envie de faire et pas l'avoir fait. Moi, là, j'ai deux objectifs en 2021. C'est bien l'année dans laquelle on est. C'est Xenoblade Chronicles 2 et Astral Chain.
Mais les jeux, tu les as achetés.
Les jeux que j'ai achetés.
Ils sont chez toi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir et de le lancer tout de suite?
Bah, Hearthstone ou un putain de gaz, par exemple.
Non, actuellement, c'est Monster Hunter, vraiment, qui m'accapare mon temps. Mais surtout, ce sont des RPG, c'est méga long.
Oui, mais en fait, tu peux très bien. Moi, c'est comme ça que je conçois le truc.
Je peux pas, si j'ai pas 5 heures de temps.
Je suis à 200 heures sur Valheim. Ça va pas empêcher de mettre 16 heures dans Dragon Quest Builders. Ça se
trouve, mais ça t'empêche pas d'être au chômage aussi.
Non, mais c'est aucun rapport.
Ouais. Bah, si, ça joue beaucoup, je te jure.
Mais aucun rapport, je joue le soir. Aucun rapport.
Ah, tu joues le soir et tu streams le midi.
Non, mais je stream 1h30 l'après-midi, en fait, entre 14h et 16h, parce qu'après, je récupère ma fille. Donc, en gros, je stream, par exemple, aucun RPG, aucun gros jeu l'après-midi, je joue qu'à Hearthstone.
Justement, mais.
Parce que je sais que c'est des runes. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si je travaillais, je jouerais pas Hearthstone, et ma vie, je m'en battrais les couilles, en fait, de ce truc-là. Parce que là, c'est juste que j'ai l'opportunité. C'est-à-dire que les gros jeux, je les fais à 22h. Que je travaille ou que je travaille pas, à 22h je suis chez moi, je joue.
Je n'aime pas du tout Pokémon, mais si j'avais jamais joué à un Pokémon de ma vie, je le regretterais amèrement, tu vois. Je pense qu'il faut tester.
Moi souvent je tourne autour de Pokémon, je demande à Ken par où commencer, parce que j'aimerais bien tester Pokémon.
En fait, la question c'est qu'est-ce qui t'empêche
pour cette raison. Il est pas dans backlog, tu vois, Pokémon, donc
la question, Ken, c'est qu'est-ce qui t'empêche de lancer Astral Chain, d'y jouer 8 heures et de dire ah putain, ça m'a fait plaisir.
J'ai pas le temps de jouer 8 heures d'affilée, je te le dis tout de suite.
Non, mais 8 heures pas en one shot. Mais tu vois, de le prendre ce soir en rentrant, là, paf, tu lances une partie, tu joues 1h30, tu le proposes.
En rentrant, je serais trop crevé.
En fait, le concept de me dire, je ne joue à un jeu que si j'ai déjà prévu d'avoir les 90 heures nécessaires dans mon emploi du temps au cordeau pour pouvoir y jouer, en fait, c'est terrifiant.
J'ai pas envie de lancer ces jeux-là et de jouer à autre chose à côté. Parce que je sais ce que ça va faire, comme Horizon.
Ouais.
C'est-à-dire que je vais revenir et je vais pas arriver. Ça va faire comme Hollow Knight, super jeu, j'ai adoré. J'ai joué à un autre truc à côté.
C'est pas grave.
Je suis revenu.
C'est
grave, j'ai recommencé les jeux. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon temps.
Mais moi, je suis d'accord. Les jeux solo, genre là, moi, c'était mon truc de faire effectivement des jeux sur la PS5. C'était de faire The Last of Us 2, God of War et Uncharted de Lost Legacy.
Ouais.
Parce qu'ils traînaient depuis longtemps. Je voulais les faire, ça me saoulait. Et je suis rentré dedans. Je me suis dit, si ces jeux-là, je commence à jongler avec d'autres jeux.
C'est pas grave.
Je sais plus trop où j'en suis, je prends pas de plaisir, mets dans le tunnel.
En fait, voilà, c'est ce rapport à.
T'en sais quelque chose, t'as commencé Cyberpunk, t'as arrêté, The Witcher, t'as arrêté.
Mais est-ce que tu me vois être
en fait,
là,
c'est un nihiliste consommateur.
Tu vois, franchement, Cyberpunk, je l'ai acheté day one, j'ai joué 32 heures d'affilée.
Bref,
je l'ai posé, j'ai pas retouché en 4 mois.
Comportement totalement normal.
Mais non, mais justement, moi je prends le truc comme tu regardes une série. T'es pas obligé de binger la série pour dire j'ai joué au jeu, en fait.
Je te jure.
Cyberpunk, j'ai fait 32 heures dessus.
Tu la racontes comme ça, mais la vraie histoire, c'est la suivante. T'achètes Cyberpunk, tu joues, tu kiffes bien puisque tu joues 32 heures.
Ouais.
Et à un moment, tu sais quoi, tu joues à Hearthstone. Et tu dis, j'ai du plaisir et tout.
Non.
Et t'oublies Cyberpunk et t'y reviens pas, et c'est tout.
Non, parce que justement, je pars.
C'est pas, c'est pas ce qui arrive. Ça n'est
oui, mais c'est pas comme ça.
70% des joueurs.
C'est pas comme ça que je l'ai conçu, que je le conçois. En tout cas, j'ai joué à Cyberpunk. Je suis arrivé à une mission qui me plaisait pas. J'ai reposé le jeu. Je me disais, ça me casse les couilles, j'y jouerai un autre jour. Et voilà.
Tu n'as pas fini le jeu, là.
Non. Je m'en fous. Il peut rester avec ses 32 heures de jeu.
C'est un nihiliste. Voilà, c'est bon.
Mais oui, non, mais en fait, je pense que la paix de l'esprit, c'est quand même super important.
Je comprends, Daz.
Se dire qu'il faut démarrer un truc et impérativement le finir, ça va à contre-courant de ce que tu disais.
Non,
on s'en fout.
Et là, c'est un autre débat. J'ai pas dit justement dans les backlogs, j'ai jamais dit de terminer un jeu, j'ai dit d'oser des jeux.
Ah oui,
surtout que les jeux,
c'est juste qu'à un moment, laisse ta chance à un jeu. Pour moi, le backlog, c'est vraiment des jeux. Parce que là, le débat s'est déplacé. Pourtant, ça n'arrive jamais dans ce podcast.
Non.
Le but d'un backlog, c'est pas de dire j'ai platiné tous les jeux, je l'ai dit. survoler des jeux,
donc c'est
ne terminez pas des jeux, mais
voilà.
au moins lancez-les. Quand tu as acheté un jeu,
c'est précisément ce que j'ai fait avec Cyberpunk. Tu vois,
je pense que 32 heures, c'est honnête.
Oui,
j'ai joué 32 heures.
C'est honnête.
Je pense qu'après 32 heures, on peut le poser et dire c'est bon.
Oui, mais après, tu vas avoir un néo puriste à la con qui va dire ah ouais, mais t'as pas fait le vrai jeu si t'as pas fait toutes les. Mais
je m'en bats
les
couilles. Il veut son argent
de jeu, alors je
pas. Il veut son argent dessus. C'est
Nier Automata, ouais.
Non, mais tu vois, enfin voilà, moi j'ai zéro problème à dire.
Là, on déplace le problème du complétionnisme. Tu vois.
Oui, mais en fait, le principe d'appeler une liste de jeux un backlog, c'est un problème de complétionnisme. Oui.
Non,
moi j'appelle ça une liste de jeux.
C'est aussi un problème de consommation. Bah, c'est un problème de consommation qui est malsaine, qui était, on a commencé à acheter des jeux avec des soldes monstrueuses et les jeux ont commencé à s'accumuler parce qu'on dévalorisait les jeux aussi. C'est un problème de consommateur, c'est de dire, justement, moi, je trouve que c'est aussi un problème de dire, j'achète des trucs dont je me fous, que je ne consommerai pas. Je trouve que c'est pas spécialement responsable.
Non, c'est
un autre problème.
C'est pas ce que je fais.
Si, t'en parles avec tes chaussures, t'as des chaussures que tu mets même pas.
Entre acheter des jeux 10 centimes et les télécharger gratuitement sur Epic Game Store, c'est quoi la différence? 10 centimes, ça intéresse que Fibre Tigre, 10 centimes
non,
de différence.
Mais
sur
et
ta
attendez,
vie, quoi.
10 centimes plus 10 enfin, centimes, hein,
si
maman,
c'est
pas
le,
de
si c'est le fait d'avoir acheté le jeu le problème, je suis désolé, il y a des jeux où j'ai acheté 2 balles, je m'en bats les couilles.
Non, moi c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est je me dis quand tu fais la démarche d'aller vers un jeu. Et des fois, d'ailleurs, tu fais même plus la démarche d'aller vers un jeu.
En général, c'est
le jeu
qui vient vers toi. Hein, c'est
voilà.
Plutôt dans ce sens.
Mais en tout cas, quand tu as décidé de. Pour moi, le backlog, c'est la liste des jeux que tu voudrais faire. Encore une fois, parce que, encore une fois, dans le backlog, t'as plein de jeux, tu sais même pas d'où ils viennent. Donc, déjà, faut les trier, ceux-là. C'est pour ça que le backlog, je pense qu'à un moment, il faut que tu commences à réduire ton backlog et c'est pas tout le jeu que tu possèdes parce que tout le jeu que tu possèdes, c'est débile. Regarde, encore une fois, c'est tous les jeux que tu possèdes avec tous tes abonnements, en fait, tu possèdes tout et n'importe quoi.
T'as raison, c'est vrai, t'en as parlé.
Non, mais en fait, mais
il n'y a aucun intérêt. Un backlog, pour moi, ça devrait se resserrer à quelque chose auquel tu as envie de t'investir un peu.
Rapidement, tour de table, quel est le prochain jeu que tu veux faire que t'as toujours pas fait, la Daz?
Vas-y, fais le tour et je te redirai quand tu en passeras.
Alors mon jeu de l'été, mon challenge marathon de l'été, c'est finir Mopiti Island sans la solution.
Mopiti Island, très bien.
Voilà, en stream.
Suzy.
J'ai malgré tout l'intention de jouer à Assassin's Creed Valhalla.
Yes.
Mais quand je pourrais acheter une PS5, donc dans deux
jamais.
Il est long, hein. Il est long.
Ouais.
T'as l'impression que c'est long, mais.
Malgré moi, et ça me coûte de le dire, j'ai aimé Odyssée.
Odyssée, il est très bien.
Ça me fait de la peine.
Non, mais Odyssée.
Ça me fait un coup de poignard
Odyssée,
à l'intérieur, mais j'ai trouvé que c'est un bon jeu.
Odyssée, c'est genre tu vas à la pharmacie qui est en face. Là, il est vraiment au-delà
de
l'horizon.
Ouais, mais j'ai fait des études de civilisation scandinave, ça me fait plaisir.
Ouais,
tout ça, moi, tu sais, les hommes en peau de bête, là.
Joue à Valheim.
Oui, c'est un
prochain jeu auquel j'ai pas joué, parce que là, j'ai envie de rejouer des jeux auxquels j'avais joué que j'avais abandonné.
Un truc, tu veux faire, tu dis, mince, celui-là, il faut que je fasse. Hein.
Vraiment, en haut de mon backlog, voilà. Throne, Undertale.
Undertale, très bien.
Undertale, je l'ai 3 fois.
Plus sur Game Pass.
Je l'ai sur différents stores.
Attends,
je l'ai acheté.
T'es fait matrixer par le forçage, toi.
Voilà, je l'ai dû le payer des fois 0€, des fois 99 centimes. Des fois, je l'ai payé plein pot pour récompenser le créateur. Je sais que c'est un jeu culte. Je le connais presque un tiers du jeu sans jamais y avoir joué. Je me dis, je voudrais vraiment faire ce jeu. Il paraît qu'il est dingue. Il est bon pour ma culture et je l'ai jamais attaqué.
Dazune.
J'ai aucun. Moi, je me pose pas de questions en fait.
Tu vis bien,
j'ai, par exemple, j'ai passé.
Un mec heureux, toi, en fait.
Sur les 3 derniers jours, j'ai dû jouer peut-être aller 8 heures à Everybody's Golf sur Vita. Pourquoi? Alors que le jeu, j'y avais joué il y a 4 ans la dernière fois. Pourquoi?
J'ai l'impression.
Moi, je me laisse porter. En fait, la différence, c'est que je me mets pas.
Je ne comprends pas.
J'ai l'impression.
Je ne sais pas qui tu es. Franchement, je ne sais pas qui est cet homme.
Mais de quoi il parle?
Est-ce que c'est le Dazidé de Twitter qui va aller se friter avec un mec qui fait un mauvais point virgule pour le traiter de facho? Ou est-ce que c'est le mec qui dit, je m'en fous de la live, j'achète des trucs que je porte même pas, des jeux que je ne sais pas qui est cet homme.
En fait, moi, je. Je butine,
j'ai pris ma voiture et j'ai roulé 8 heures.
Bah ouais, mais non, mais c'est ça.
Par contre, toi,
c'est le voyage. Et Everybody's Golf, je vais certainement pas le platiner. Je vais peut-être y jouer comme ça en point de suspension pendant 2 semaines et demie. Et mais, puis après, j'y retoucherai pas pendant 4 ans.
Mais ton backlog de facho dans tes mentions Twitter, et là, tu écluses ton backlog, et genre tu platines.
Non, pas systématiquement.
Le mec, il fait 100%, en fait. Il fait 100%, le mec. 100%, il fait, toi, j'ai platiné.
Non, mais je pense vraiment, vous devriez prendre un peu de recul sur ce truc là et en fait juste jouer à ce que vous avez envie de jouer et puis pas vous poser de questions en fait.
Ton jeu c'est Twitter,
tu as raison,
en fait.
La vie à la cool, merci
mais ça je pense
beaucoup.
Que vraiment ce côté let go, tu vois, La parentalité, ça aide vachement aussi à se positionner sur ce truc-là. Donc peut-être que quand vous aurez des gamins, vous envisagerez un parti de la vie un peu différent.
Ça, il ne nous a paternalisé, ça y est.
Je suis obligé, malheureusement.
Tous les parents que je connais à part toi, c'est des ultra stressés de la vie.
C'est triste.
Franchement, toi, t'as platiné vraiment le game. Je te jure, c'est violent. GG, en tout cas, merci à tous si vous êtes encore là et que vous nous écoutez malgré.
On est ensemble depuis combien de temps?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. On vous embrasse tous.
2h40. Oh, ça va.
Embrasse tous très fort 2h40.
Il y a des commutes qui durent 3h15.
C'est écoutable, évidemment. Ça peut se platiner hein. Aussi. Quête latérale, n'hésitez pas à faire votre backlog. Puisque
on en parle du backlog des podcasts.
Tous les autres. J'avoue. N'hésitez pas à nous écouter en 1x5. Ça nous fait plaisir. Tant que vous écoutez tout le podcast.
Non seulement tout le podcast, mais même plusieurs fois. Ça
voilà. S'il vous plaît.
Non, mais franchement, si tout le monde écoutait deux fois ce podcast, on gagnerait deux fois plus d'argent.
Voilà. C'est mathématique. Il est très fort, hein,
c'est bon d'appeler aussi au Patreon, évidemment, qui donne de l'argent. Vraiment, manger chaque euro du Patreon que vous donnez au podcast de qualité.
Ah bah écoutez, vous avez une newsletter, arrêtez, voilà. Ça va.
Écoutez, trois fois
dans podcast. Il y a vraiment des
newsletters. Chut.
Ok. Moi, j'étais pas sûr, j'avais entendu que ça devait revenir tous les mardis, mais non, ça fait au moins 6 mois.
Non, j'en fais une dimanche. J'en fais une, en fait, les semaines où il n'y a pas Game of Thrones.
Il a des notifications pour les
semaines. Non, pas cette semaine.
Ouais, mais c'est rare, parce que sinon, c'est une fois Mademoiselle.
C'est une semaine par mois.
Ah oui, d'accord.
Eh oui, une semaine par mois. J'en profite tout particulièrement pour remercier Suzy de sa présence.
Oui, merci Suzy pour ses éclairages.
Je sens que Suzy pourrait faire des bonnes chroniques.
Je peux revenir. Arrangeons-nous.
On paye en bobine, écoute.
Non, mais c'est pas mal. Est-ce que tu peux revenir un peu vénère en disant bon, on va parler de ce studio aujourd'hui, on va lâcher des dossiers
Il
ou pas
faudrait que je trouve d'abord un autre métier et après je dirai tout. Voilà.
Parce qu'en off, elle nous sort des trucs.
Je te souhaite pas, mais vivement que tu sois au chômage comme d'hab. Je pense que ça va balancer.
Oui,
même si je te le souhaite pas, bien sûr.
Même en active, hein, tu peux balancer sur la boîte qui t'emploie, il n'y a pas de problème. Bon, après, tu ne t'en pourras plus, mais c'est pas grave.
Allez, merci à tous. Bisous.
Ciao, ciao.
Et à la prochaine.
À bientôt.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.